Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. À chaque fois, ça me surprend de voir mes cheveux courts parce que j'ai pas l'occasion de me voir dans la glace. Je putain, c'est vrai, je me suis coupé les cheveux. Va falloir que ça rentre. Hein. Bonjour, bonsoir. Merci Krashnir. Bon, merci à vous pour vos subs, Averusa. Merci, 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 merci. Bonsoir. Ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir. Pas de commentaires sur le physique. C'est ce que je me dis à chaque fois que je suis dans ma glace. C'est pas tous les jours. Hein. Pas de commentaires sur le physique. Sinon, je m'auto-banne et tout, c'est chiant. Est-ce que ça va? Et 19h, c'est tard. Mais j'avais du boulot toute la journée. Oh, on n'arrête pas. Hein. Merci à Dramlèche. Ça va comme un lundi. Ah, bah comme un lundi du mercredi, ouais, très bien. On est mercredi, tout ça, je réfléchis. Attends, demain backseat, ouais, ça c'est vrai, ça je me souviens, c'est à peu près dans le planning, c'est bon. Ce soir, FAQ politique, hier, question au gouvernement, vendredi, jump seat à midi, que du bonheur quoi. Je pensais qu'on était mercredi et que du coup c'était backseat. T'es bourré, toi. Pour une fois, je suis à l'heure. Ouais, bonsoir, bienvenue. J'ai envie de gaufres. Eh bah, ben, ne t'empêche pas. Loin de moi l'idée de t'empêcher. Demain, journée de mobilisation. Ouais. Jump seat. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme just eat. Tiens, j'ai envie de gaufres aussi du coup. Ah ça y est, il y a une épidémie de gaufres dans le chat. J'ai un gaufrier moi en plus. Ah, faudrait que je le réutilise, on est en hiver en plus, c'est le moment. Pourquoi les questions au gouvernement sont le mardi? C'est une bonne question. J'en sais rien. Je sais que c'est pratique le mardi parce que il y a des députés qui viennent de loin, qui ont des circonscriptions qui sont éloignées de Paris, etc. Et que on est sûr que le mardi, le mercredi et le jeudi, c'est les 3 jours où on a le plus de députés à Paris. Parce que le lundi, il y en a qui prennent le train pour revenir après le week-end. Parce qu'il y en a qui partent le vendredi pour retourner en circonscription le vendredi, faire des permanences parlementaires et tout. Donc mardi, mercredi, jeudi, on est sûr que... Voilà. Mais t'as raison, ouais, pourquoi le mardi? Je sais pas, tiens. Avant, c'était mardi, mercredi. Il y avait 2 séances par semaine, une le mardi, une le mercredi. Ils ont fini par les réunir en une seule séance le mardi qui dure plus longtemps. Le mercredi, il y a la séance des questions au gouvernement au Sénat. Alors qu'avant, ils étaient à l'Assemblée, puis... Les ministres allaient au Sénat pour une rebelote, une deuxième séance. Mais c'était tellement relou dans l'agenda des ministres. Et pas que des ministres, hein, même les députés, ça leur bloquait l'après-midi et tout machin. Voilà. J'ai rien compris à l'utilité du système bicaméral si t'as un réfresheur simple. Système bicaméral, ça veut dire qu'on a deux chambres qui travaillent l'une avec l'autre pour essayer de trouver un accord pour voter les lois. Ok? Le Parlement a deux chambres différentes, avec des modes d'élection qui ne sont pas les mêmes. Ça paraît d'avoir une pluralité de représentativité, avec des modes de représentativité dont on peut décider comme on veut. Le principe de base d'avoir deux chambres, ça sert à limiter les effets délétères que tu peux avoir en n'ayant qu'une seule chambre. Si tu n'as qu'une seule chambre, ça veut dire que toute décision qu'elle prend est définitive. Et on a déjà connu par le passé un système avec une seule chambre, c'était la Convention nationale pendant la Révolution. Ça n'a pas laissé que des bons souvenirs. Il y a un côté séparation des pouvoirs au sein même du pouvoir législatif, de manière à rationaliser le travail, etc. Et c'est resté, ça s'est même imposé comme un modèle dans le monde entier, d'avoir deux chambres dans le Parlement. Pour faire simple, ça sert à éviter qu'une seule chambre ait tout le pouvoir législatif à elle toute seule. Voilà. Pour faire simple. Est-ce que tu peux nous présenter ou nous teaser le profil de la nouvelle chroniqueuse pour demain? Alors demain sur Backseat, nous recevrons une nouvelle donc chroniqueuse qui vient s'essayer au travail de chronique. Elle s'appelle Claire Lejeune. Elle est très très chouette. Claire Lejeune, vous la connaissez peut-être parce qu'elle c'est une militante écolo. Elle fait partie de la génération climat. Vous savez Camille Etienne, etc. Toutes ces personnalités célèbres du mouvement climat. Donc c'est une militante écolo. Qui a été d'ailleurs candidate aux élections législatives sous l'étiquette de la NUPES en Essonne en juin dernier, et qui est une chercheuse en sciences politiques, en théorie politique. Voilà, c'est une chercheuse en sciences politiques, et voilà. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il existe un monde où une mobilisation d'ampleur ferait reculer le gouvernement? C'est déjà arrivé, donc oui. Voilà, t'as ta réponse, oui, c'est déjà arrivé. Y compris en France, en 2006 pour le CPE, en 95 pour la réforme des retraites. Voilà, donc oui. Est-ce qu'elle sera neutre? Être chroniqueur sur Backseat n'impose pas nécessairement une neutralité. Moi, je demande à personne d'être neutre, ça n'existe pas. Les gens sont eux-mêmes. C'est une neutralité, personne ne peut être neutre. On ne peut pas être objectif quand on n'est pas un objet. Une table, c'est neutre. Un sujet, comme un être humain, n'est jamais neutre. C'est un sujet, c'est donc toujours subjectif. Mais ce que je demande à mes chroniqueurs, c'est pas tant de venir défendre leurs opinions que de venir présenter leurs analyses et venir apporter des éléments d'explication et de compréhension du monde politique. Ça peut aller dans le sens de leurs opinions, ça peut aller dans un autre sens, ça peut faire des pas de côté, etc. Il n'y a rien d'obligatoire, hein, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut t'envoyer de l'amour par mail ou est-ce que c'est réservé aux trucs vraiment pro? Oui, tu peux. Le Sénat reste à majorité LR depuis quand? La dernière fois, c'était jusqu'en 2010. Non, c'était même plus tard. Non, c'était plus tard, c'était 2014. Il y avait une majorité PS au Sénat. 2015? Ah oui, c'était les sénatoriales de 2015. Non, mais 2014, c'était les municipales. Et du coup, 2015, retour à droite. Ouais, c'est ça. Personne n'est neutre, faut arrêter de demander d'être neutre à des gens qui parlent de politique, ça n'existe pas. Oui, non, non, encore une fois, attendez, lui tombez pas dessus, c'est une question intéressante, c'est la question de la posture sur le plateau. Un chroniqueur n'est pas un invité, un chroniqueur fournit un travail d'explication, en tout cas c'est le point de vue éditorial de Backseat, c'est que les chroniqueurs soient utiles à la compréhension du monde politique dans sa globalité, sa difficulté, ses subtilités, etc. Sans être neutre, ils sont pas non plus là pour faire des tribunes politiques et défendre des bouts de gras. Voilà. C'est quand qu'un vrai débat et une vraie démarche sur la refonte de nos institutions? Ah bah ça va arriver, figure-toi. Ça va arriver puisqu'il y a un article du Figaro qui explique que Emmanuel Macron est en train de commencer un travail de consultation en vue de revenir à la charge avec sa réforme des institutions. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait voulu faire une réforme des institutions en 2018 et que cette réforme avait été interrompue par l'affaire Benalla au milieu de l'été 2018, si vous vous en souvenez. Et donc depuis, ça c'était au point mort, il ne s'était rien passé. Et donc Emmanuel Macron est en train de réemmancher cette réflexion. Donc il est possible que dans le courant de l'année 2023, on en reparle. Donc on verra. Dans la réforme des retraites, est-ce que la notion de pénibilité est gardée pour partir plus tôt? Comment faire pour en savoir plus? Oui, dans la réforme des retraites proposée par le gouvernement d'Elisabeth Borne, il y a bien la réintégration de critères de pénibilité dans le calcul des droits à la retraite. Les personnes qui ont des trimestres de retraite cotisés dans des travaux pénibles bénéficieront d'une possibilité pour partir plus tôt à la retraite. C'est les critères de pénibilité qui ont été retenus. Qui ont été réintroduits parce qu'en fait ils avaient été votés puis ils avaient été supprimés en 2018. Donc là ils reviennent. Certains d'entre eux reviennent, pas tous. Et notamment les ports de charges lourdes, les vibrations, le travail de nuit. Voilà. Donc oui. Et comment faire pour en savoir plus? Il va falloir attendre le vote de la loi et l'entrée en vigueur, je pense, des décrets d'application pour en savoir un peu plus. Voilà. Donc Larcher, encore combien de temps? Gérard Larcher, c'est le président du Sénat. Il y a des élections sénatoriales en septembre prochain et Gérard Larcher sera peut-être, je ne sais pas, réélu président du Sénat après les élections sénatoriales. Ça dépend de lui, ça dépend de sa majorité, etc. L'exposition aux produits toxiques, je ne sais pas si c'est un critère qui a été retenu. Honnêtement, là, je ne sais pas, c'est un peu précis comme question. Le travail de nuit, c'était déjà le cas avant. Le travail de nuit est déjà considéré comme un critère de pénibilité, c'est possible. Dans le calcul des droits à retraite, c'est possible. Dans ma commune, la maire a annoncé que dans les prochains mois, elle va se retirer de la vie politique et quitter son poste. Dans son cas, qui la remplace? Le premier adjoint ou alors le conseil municipal vote pour un nouveau maire? Le conseil municipal vote pour un nouveau maire. Je vous rappelle que le maire n'est pas élu au suffrage universel direct, contrairement à ce qu'on pense spontanément. Il est élu par le conseil municipal. Il y a une exception à ça, c'est les toutes petites communes de moins de 1000 habitants, où là c'est directement une élection directe. Mais dans la plupart des communes, le maire est élu par son conseil municipal. Et donc quand un maire démissionne, décède, il n'y a pas besoin de refaire des élections municipales. Le conseil municipal élit un nouveau maire. Un ou une nouvelle maire. Est-ce que tu conseilles le site du gouvernement Vie Publique pour s'informer sur le fonctionnement du pays? Oui, Vie Publique est un assez bon site. Viepublic.fr, c'est un site qui, de mémoire, est tenu par les services des ministères de l'information, là, comment ça s'appelle? Enfin, c'est un service du Premier ministre sur la documentation administrative, etc. C'est plutôt un bon site, Viepublic. C'est effectivement un site d'État, donc gouvernemental, mais ils font pas pour autant la publicité nécessairement du truc du gouvernement, la DILA, la Direction de l'information légale et administrative. Merci, bravo, la DILA. Putain, il y a des gens qui savent. Non, le SIG, c'est autre chose. Le SIG, c'est le secrétariat d'information du gouvernement, le service d'information du gouvernement. Eux, ils font de la com gouvernementale. La SIG, c'est la direction de la com du gouvernement. Donc eux, ils sont là pour faire de la com et vendre l'action du gouvernement. La DILA, c'est différent. Et le site Vie Publique est plutôt pas mal. C'est assez bien fait. Ils font de la pédagogie, des explications. Ils répondent à des questions d'actualité. Que prévoit la réforme des retraites? Comment ça marche tel truc et tout. C'est plutôt pas mal. Ouais. La DILA, je te veux si tu veux de moi. Est-ce que tu comptes changer le nom des points de chaîne maintenant qu'on parle plus de retraite à points? Ah, un jour, il va falloir que je change les noms de chaîne. Oui, t'as raison, on avait fait la blague il y a 2 ans sur les points retraite. T'as raison. Donc ouais, non, si vous tombez sur vie-république.fr, c'est un site plutôt pas mal. Voilà, il faut sûrement pas que ce soit votre seule source d'information, mais ça pour répondre à des questions un peu pratico, genre what the fuck, à quoi ça sert, machin, ça marche comment et tout, c'est plutôt bien fait. Le site du Sénat aussi a tout un tas de textes, d'explications du fonctionnement de la loi, plutôt bien fait, un peu technique, mais vraiment bien pour les étudiants qui révisent et tout, pour la procédure, c'est très objectif, c'est très bien fait. Le site du gouvernement, c'est le site du gouvernement, mais là, eux aussi, ils ont un petit truc d'explication sur comment ça marche et tout. Il y a deux, trois infos pas inintéressantes. Voilà. Mais bon, c'est cool aussi, Wikipédia à côté, les journaux, etc. À quand la démocratie directe en France, genre le peuple vote directement sur les changements de loi? Alors ça existe, ça s'appelle le référendum, notamment l'article 11 de la Constitution qui prévoit la possibilité de faire voter les lois par référendum. Il n'y a pas que le Parlement qui peut voter les lois, il y a aussi le peuple par référendum. Mais la dernière fois que ça a été utilisé, c'était en 2005. Et en l'occurrence, c'était même un autre article de la Constitution, c'était l'article 89 dans le cadre de la modification de la Constitution. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais ça existe. Il est tout à fait possible de faire voter une loi, une simple loi, par référendum. Comment les jeunes peuvent-ils influer sur la politique directement? Les jeunes peuvent influer sur la politique de la même manière que les vieux. Il n'y a pas de spécificité jeune, sauf exception, je vais essayer de t'en parler, mais les jeunes, en tant que citoyens, même en étant mineurs, bénéficient de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de la liberté de manifestation. Les jeunes peuvent mener des projets, créer des assos, rejoindre des syndicats, des partis politiques, participer au débat public, prendre rendez-vous avec leurs élus, leur parler, leur suggérer, manifester, se mobiliser, etc. Les jeunes, il n'y a pas de restrictions. Il y a même des spécificités pour les jeunes dans les collectivités locales. Il y a ce qu'on appelle parfois les conseils municipaux de jeunes, les conseils départementaux de jeunes ou les conseils régionaux de jeunes. Ça existe dans beaucoup, beaucoup de villes, de départements et de régions. Et ce sont des instances de consultation citoyenne spécialement réservées aux jeunes. Il y a plusieurs types d'organisations possibles et tout, mais ça existe et c'est pour les jeunes. Donc voilà. Ça fait combien de temps qu'un référendum n'a pas donné raison au gouvernement qu'il a soumis au peuple? C'est bah, 2005. Les Français ont voté non au traité constitutionnel européen. Liberté d'association sous le contrôle des parents pour l'adhésion. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une autorisation parentale pour adhérer à une association pour un jeune. Je suis pas persuadé. Il existe un dispositif qui s'appelle les junior associations. Je sais parce que j'ai été membre du bureau, j'ai été secrétaire général du réseau national des junior associations, et c'est un dispositif qui a été créé justement pour permettre aux mineurs de créer leurs propres assos en bénéficiant de tous les avantages qu'ont les adultes, c'est-à-dire par exemple ouvrir un compte en banque, avoir une assurance, etc. Donc si vous êtes mineur et que vous voulez mener un projet associatif, vous pouvez le faire via le réseau national des juniors associations. C'est fait pour, c'est trop bien. Vous avez des référents associatifs qui vous aident dans votre département et tout. Voilà. En quoi consistait le traité constitutionnel européen? Le traité constitutionnel européen prévoyait de doter l'Union européenne d'une constitution. Il n'en a pas de constitution puisque l'Union européenne est une organisation internationale qui est régie par ce qu'on appelle des traités internationaux signés entre les États membres qui se mettent d'accord sur plein de trucs. Et le traité constitutionnel européen prévoyait de doter l'Union européenne d'une constitution avec tout un mode de fonctionnement. Je me souviens qu'il y avait un ils avaient pré-créé la logique de président du Conseil. Il y avait des ministres européens, je me souviens, qui étaient prévus. C'était plus ou moins les comment ça s'appelle? Qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de commissaire européen, il était prévu d'en faire des ministres. Il y avait pas mal de choses. Rationalisation du pouvoir du Parlement européen, pouvoir d'initiative du Parlement européen. Il y avait plein de trucs. Est-ce que l'organigramme sur le fonctionnement de la Ve République sur Wikipédia est fiable? Je sais pas, je l'ai jamais vu. Je sais pas. Merci pour les références hier pour l'anarchie, ça m'a bien aidé. Effectivement, le podcast de Thomas Legrand est très intéressant. T'as vu, c'était cool, hein? Bah écoute, tant mieux. Très heureux que ça t'ait été utile, si je peux t'aider. Est-ce qu'il y a des politiques françaises en faveur d'une Europe fédérale? Les fédéralistes européens, alors ça existe, les fédéralistes européens. Il y a même une organisation pan-européenne qui s'appelle le Mouvement européen. Non, c'est même pas le Mouvement européen, il y a même un truc qui s'appelle les fédéralistes européens, hein. Il y a une association slash parti politique européen. Donc ça existe, ouais. Est-ce qu'en France, il y a des politiques qui sont ouvertement fédéralistes? Je ne sais pas s'ils utilisent le mot, mais il y a toute une partie d'Europe Écologie Les Verts qui a toujours été très très européen. Il y a des centristes aussi, du côté du MoDem notamment. Je ne sais pas si ELV se revendique du fédéralisme en utilisant le mot fédéralisme. Je ne sais pas, peut-être. La définition du fédéralisme. Alors, le fédéralisme, l'idée de fédéralisme, c'est l'idée de doter l'Union européenne d'un mode de fonctionnement proche de celui des États-Unis, c'est-à-dire que les États européens deviennent des États fédérés au sein d'une fédération européenne, avec des pouvoirs encore plus intégrés, avec un gouvernement européen, de la même manière que l'Iowa est un État américain, ils ont leur propre parlement, leurs propres lois dans l'Iowa, ils ont leur propre cour suprême de l'Iowa, ils ont leurs propres tribunaux, mais ils sont membres de la fédération des États américains qui constituent les États-Unis d'Amérique. Un système fédéral, eh ben, il y a l'idée que la France devienne un État fédéré comme les autres, etc. C'est ça l'idée du fédéralisme européen. Voilà. En très gros, l'Europe devient un pays. C'est un gros changement. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Alors après, il faut demander aux fédéralistes européens eux-mêmes qui te diront mieux que moi comment eux ils imaginent le fonctionnement du bordel, mais c'est un peu l'idée, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est un peu déjà le cas en interne, genre les départements sont fédérés en un État français. Alors non, faut pas confondre une république fédérale et une république décentralisée. La France est une république décentralisée, c'est-à-dire que nous avons des, c'est-à-dire que nous avons ah putain, des collectivités locales, mais qui ne sont pas. J'essaie de trouver. J'essaie de faire gaffe aux mots que j'utilise parce que là justement, c'est justement dans les mots que se cache le diable. C'est pas des États, c'est pas des républiques fédérées, c'est pas la République de Bretagne qui est membre de la République française. Tu vois, ça marche pas comme ça. Notre République est unitaire. C'est pas le bon. Voilà. dans l'article 1, ils l'ont écrit comment déjà? Je me souviens plus. Putain, on en avait parlé en plus. Indivisible. La France est une république indivisible, oui. Une et indivisible, ouais. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de petite république au sein de la France et tout. Il y a une république française qui s'organise et se structure avec une partie de décentralisation, donc avec des pouvoirs décentralisés, donc au niveau local. Les affaires locales sont gérées au niveau local, pour faire simple. Les collectivités n'ont pas de pouvoir législatif contrairement à un État fédéré. Ouais, c'est ça. Alors, les collectivités locales ont des pouvoirs de gestion dans leur propre domaine de compétences. On utilise le mot compétence en droit public. Donc, l'État ne peut pas décider à la place d'un conseil municipal comment gérer la gestion des déchets dans la commune. C'est un pouvoir. Voilà. Donc, effectivement, ce ne sont pas des lois. C'est un autre mot qui s'appelle des délibérations. Donc au niveau d'une collectivité locale, on utilise le mot délibération en synonyme de ce qu'on appelle loi au niveau national. Donc c'est une décision politique qui a des effets de droit, donc qui organise, qui. Voilà. T'as réussi à faire venir Martinez un soir de mobilisation, c'est plutôt énorme ça. Mais oui, mais j'en suis très heureux. Philippe Martinez, de la CGT, a accepté notre invitation sur le plateau de Baxit demain, après la manifestation. Et je suis très content, on a beaucoup de questions à lui poser. Premier jour de mobilisation, etc. Un contexte syndical intéressant. Donc c'est très chouette, je suis très heureux. Donc ouais, ça c'est très très cool. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et on en recevra d'autres, je pense. On va essayer de recevoir d'autres au fur et à mesure de la mobilisation, membres d'organisations syndicales, du gouvernement, des députés, etc. A priori, on part pour plus d'un mois, voire même deux, hein, de discussions autour de ce projet de réforme des retraites. Donc ça va pas mal nous occuper, donc c'est intéressant. Le conseil d'orientation des retraites aussi, ça m'intéresserait de les recevoir. Bref. J'ai pas le besoin de vous faire la pub de qui j'aimerais bien avoir dans Baxit, j'aimerais avoir beaucoup de monde. Voilà. C'est quoi les revendications de la CGT? Le retrait du projet de réforme des retraites. Pour le coup, c'est assez simple. Comme revendication. Pourquoi on parle de contre-réforme à gauche? Contre-réforme, c'est un terme qui est utilisé pour. C'est un terme qui est utilisé pour comment dire parler de contre-proposition en fait. Le gouvernement propose une proposition de réforme de notre système de retraite pour en assurer la pérennité, etc. Il y a des opposants, des gens à gauche qui proposent une autre réforme, une autre manière de financer, plus juste selon leur point de vue, etc. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle une. Niveau invité raccord avec l'actualité, c'est raccord. Eh, je vous avais dit, hein, moi je veux que Baxit soit plus en phase avec l'actualité de la semaine. Ça permet de montrer que, contre l'opposition, il y a un projet derrière. Salut Cassandre. Oui, absolument. Absolument. Et ça aussi, c'est un enjeu important pour les oppositions, parce que vous savez, les oppositions, Leur nom peut laisser indiquer qu'une opposition ne sert qu'à s'opposer, à être contre ce que propose le gouvernement. En réalité, une opposition ne fait pas que s'opposer, puisqu'une opposition, en général, a la prétention de prendre le pouvoir par les urnes et donc de faire autre chose, sous-entendu mieux, que le gouvernement. Et donc c'est important que dans le travail d'opposition, il y ait non seulement de la critique de ce que fait le gouvernement, mais qu'il y ait aussi de la contre-proposition en disant bah, « si nous on était au pouvoir, voilà ce qu'on ferait, c'est une forme d'argumentaire vis-à-vis de vous, les électeurs, en disant « voilà, votez pour nous, regardez, nous avons fait des contre-propositions, nous sommes sérieux, on ne s'oppose pas pour s'opposer ». Et c'est assez important. C'est assez important, donc voilà. Ah oui, alors non, pardon. Excuse-moi, pardon. Oui, non, j'ai mal compris ta question. Le mot contre-réforme, c'est pas ce que tu voulais dire. En fait, tu as entendu de la bouche d'opposants, notamment à gauche, parler de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Enfin, du gouvernement d'Elisabeth Borne, comme une contre-réforme. En fait, oui, pardon. Contre-réforme, ça veut dire. En fait, c'est assez intéressant parce que, étymologiquement, pas étymologiquement, mais dans le paysage politique français, le mot réforme est historiquement un mot de gauche. Réformer, c'était la volonté du Front populaire en 1936, en 1981, de Mitterrand, etc. C'était réformer, sous-entendu, le système capitaliste, injuste, le réformer pour rajouter de la justice, etc. Donc le mot réforme est un mot qui est empli de progrès, historiquement. Il se trouve que, depuis les années, depuis le tournant néolibéral des années 80, le mot réforme est devenu petit à petit un mot chargé d'une connotation d'adaptation aux règles du commerce international. Vous vous rendez compte, l'économie, ça marche comme ça, ma bonne dame, etc. Donc, la gauche utilise parfois le mot contre-réforme en disant c'est une forme d'argument pour dire au gouvernement, votre réforme n'en est pas une, c'est un recul social, c'est un recul, ce n'est pas un progrès, c'est un recul, ce n'est donc pas une réforme, c'est une contre-réforme. Voilà, excuse-moi. Non, mais t'as raison. Oui, le mot contre-réforme a été utilisé par beaucoup de députés. Et la contre-réforme, c'est aussi les cathos face à la réforme protestante historiquement. Ah oui, rien à voir, mais oui. Oui, la contre-réforme catholique, c'était le... Oh putain, on fait de l'histoire théologique maintenant. C'était le concile de... C'est le Concile de Trente, la contre-réforme. La Ligue catholique et tout. Ouais, le Concile de Trente. Voilà, la contre-réforme catholique. Les protestants ont protesté, les catholiques se sont raidis et ont fait la contre-réforme. C'était Jésus 2.0. Ouais. C'était Vatican 1.0. Est-ce qu'il y aura des invités queer sur Backseat? Eh bah, ben, ça dépendra de l'actualité. Mais en tout cas, si ça peut te rassurer, il n'y a évidemment aucune contre-indication, bien au contraire, à ce qu'on invite un ou une invitée queer un jour. Mais ça va dépendre de l'actu, en fait. Donc voilà. À partir de quand sont apparus les syndicats en France? La notion de syndicat renvoie très directement à l'organisation dans le monde du travail. L'auto-organisation des travailleurs dans le monde du travail. On parle de monde du travail essentiellement à partir de la révolution industrielle du milieu du 19e siècle. Vous vous en souvenez, au 19e siècle, il y a eu une grande révolution industrielle partout en Europe et dans tout le monde développé autour de la machine à vapeur, du charbon. C'est la création des usines, c'est la création de l'automatisation des processus, etc. C'est l'apparition d'un nouveau commerce, une nouvelle manière de faire. Okay ? Cette révolution industrielle a emmené avec elle une profonde transformation du monde du travail, qui avant se faisait dans des unités de production plus petites, avec des manufactures qui étaient des sortes de pré-usines plus petites qu'une usine. Et ça a donné naissance à une classe. Enfin, les historiens de matérialisme vous diraient que c'est plus compliqué que ça, les classes existaient avant, mais il y a une véritable classe du travail, que les marxistes appellent le prolétariat d'ailleurs, qui sont les personnes qui n'ont rien d'autre à offrir que leur force de travail, qui se retrouvent n'avoir que leur corps à vendre pour travailler. Cette classe ouvrière se dote petit à petit d'une conscience de classe. se reconnaît comme classe et commence à se mobiliser, s'organiser en classe, dans le monde du travail, pour protester, proposer, organiser, etc. Je vous avais expliqué la dernière fois la naissance des premières caisses de solidarité qui sont devenues bien plus tard les caisses de retraite, les caisses d'assurance vieillesse, etc. Mais au début, ça fonctionnait comme ça. Il se trouve que le nom qu'on a donné à ces organisations dans le monde du travail de contestation, notamment du patronat, du capitalisme, etc., c'était le mot de syndicat. Se syndiquer, c'est rejoindre une organisation qui a des revendications dans le monde du travail. Et les premiers syndicats, un historien du syndicalisme te dirait que ça peut remonter à très loin parce qu'il y avait avant il y avait des organisations par corporation. C'est aussi ça la grande différence entre le monde du travail et la conscience de classe vis-à-vis d'avant. Avant, on se considérait davantage comme membre d'une corporation. La corporation des tailleurs de pierre, il y avait des tailleurs de pierre partout en Europe, ils appartenaient à la grande corporation des tailleurs de pierre. Plus tard, au 19e siècle, le tailleur de pierre, il était ouvrier avant de tailler la pierre, en fait. Et donc, il avait une conscience d'appartenir à la classe ouvrière et qu'il avait donc une solidarité de fait avec celui qui s'occupait de faire du pain, celui qui s'occupait de machin. Et par-delà nos métiers, on forme une classe sociale. Et donc, le mot syndicat commence à vraiment rentrer dans le terme à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Et c'est la loi Waldeck-Rousseau, donc on est fin 19e siècle, dans les années 1880, je crois, qui organise et autorise même, parce que c'était longtemps interdit, vous vous doutez bien, ça a été longtemps interdit de se syndiquer, et finalement il a fallu une loi pour autoriser. C'est 1882, merci. L'urbanisation et la concentration des ouvriers a permis cette classe de davantage se retrouver entre elles et politiser ses conditions d'existence. Ben oui, Cassandre, oui, c'était évidemment un des mouvements les plus fous du 19e siècle, au-delà de la mécanisation du charbon et de la vapeur, c'était l'exode rural. C'est-à-dire que des gens qui avant habitaient à la campagne, dans des petits bourgs, des petites villes, etc., se sont retrouvés à habiter dans des centres urbains qui favorisent la conscience de classe, parce que tu te retrouves à être habillé de la même manière que des milliers de personnes autour de toi, à aller à la même heure au travail, à souffrir, à travailler de la même manière, et ça favorise évidemment une solidarité. On se reconnaît entre nous, etc. C'est 1884, la loi Waldeck-Rousseau ? Ok. Donc voilà, après il y a eu la Première Guerre mondiale, etc. Il y a la Seconde Guerre mondiale et l'exode rural de la modernisation et des Trente Glorieuses, etc. Il y a eu plusieurs mouvements d'exode rural en France, mais oui, l'urbanisation a été un phénomène très important. Il y a eu aussi l'apparition du train. Alors ça paraît étrange, mais on a oublié à quel point le train avait joué un rôle majeur dans la construction du mouvement ouvrier. Pas seulement parce que les cheminots, grévistes, CGT, non, parce que le train rendait possible le voyage et donc rendait possible à des gens qui avant ne quittaient jamais leur département, voire même leur canton. Il y a des gens qui naissaient et qui mouraient, et qui vivaient et qui mouraient dans le même canton toute leur vie. Une fois, ils étaient allés à un mariage quelques dizaines de kilomètres plus loin, ils étaient revenus. Et en fait, le train a rendu possible le voyage et donc des Français se retrouvent à voyager, à bouger et à se rendre compte qu'en fait, on est tous pareils. Ça facilite beaucoup la solidarité aussi. Donc voilà. Donc voilà pour te répondre. La naissance du syndicalisme, c'est seconde moitié du 19e siècle. Et ça a une longue histoire très intéressante d'ailleurs. Il y a un documentaire sur l'histoire du syndicalisme que j'avais re-regardé il n'y a pas longtemps dans une insomnie. Je l'avais trouvé sur Dailymotion. Il y a un docu. Rien à voir, mais le projet de loi retraite est déjà déposé devant l'Assemblée nationale ou pas encore ? Pas encore. Nous sommes le 18 janvier 2023 après Jésus-Christ. Le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale sera adopté en Conseil des ministres mercredi prochain et déposé dans la foulée à l'Assemblée nationale. Tu as quelques jours d'avance. Ou alors c'est aujourd'hui ? Attends, je sais plus. Non ? Je sais plus. Sinon, avec le train, c'est le début de la standardisation de la langue française. Oui, aussi, bien sûr. Alors, il se trouve que le train est arrivé à une époque de construction républicaine où cette volonté très jacobine d'unification, d'égalité de tous les Français et tout a aussi pris corps dans une école publique, qui est arrivée dans les années un peu plus tard avec les lois Ferry. Mais voilà, l'idée d'uniformiser le peuple, d'uniformiser le peuple français par sa langue, c'est pas que le train, mais ça a aidé. Il y a aussi eu, je me souviens, c'était un épidémiologue qui racontait ça au moment du Covid, qui disait que le train en Europe a permis une harmonisation bactérienne. C'est-à-dire que on voit très très bien les historiens de la santé et de la médecine voient très bien qu'à partir de l'apparition du train, en quelques décennies, tous les Européens se sont mis à mettre leur système immunitaire au même niveau. C'est marrant, mais c'est intéressant. Ouais. Le train a transporté des bactéries partout en Europe. Il y a des gens qui ont dû choper des sacrés diarrhées, mais voilà, une fois que t'as les anticorps, hein, si tu veux. Et c'est assez marrant, ouais. Qu'est-ce que tu penses du projet de loi dans ses grandes lignes? Le projet de loi de réforme des retraites? C'est très classique, c'est une loi paramétrique. C'est très classique, hein, c'est un report de l'âge légal de départ à la retraite. Non, j'en pense pas grand-chose. À titre très personnel, mon opinion, je la garde pour moi, on s'en fout pas mal de ce que je pense, mais c'est un projet paramétrique, basique, qui reporte l'âge légal de départ à la retraite, qui le fait de manière progressive, qui apporte des maigres contreparties sur le maintien du dispositif de carrière longue, un petit peu sur la pénibilité. Je pense, la vraie question que je me pose, c'est... Quand tu penses, le premier mec qui a eu la gastro, il a dû être surpris, oui. Il savait pas d'où ça venait. Et en fait, c'est Michel, c'est ton pote Michel qui revient de voyage à Paris. Bah, il t'a rapporté la gastro, ça, tu le sais pas, mais c'est lui. En fait, la vraie question que je me pose, c'est y a-t-il des marges de manœuvre dans le projet de loi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au Parlement, bon, on verra à quoi vont ressembler les débats parlementaires, mais est-ce qu'au Parlement, des députés vont pouvoir, notamment les Républicains qui ont l'intention de toucher à deux, trois trucs, est-ce qu'ils vont pouvoir renforcer les critères de pénibilité, modifier le dispositif carrière longue pour les gens qui ont commencé à bosser à 20 ans, qui doivent travailler un an de plus. Je sais pas, de vraies questions. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je vois beaucoup parler de l'article 47-1 pour faire passer la réforme des retraites. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, je vais vous expliquer. Cette réforme des retraites, le gouvernement a choisi un véhicule législatif un peu particulier pour la faire examiner au Parlement. Je vous rappelle que le gouvernement peut proposer des lois. On appelle ça des projets de loi, les faire examiner par le Parlement. Il y a des procédures qui sont prévues, Assemblée nationale, Sénat, la navette, tout ça, tu connais. Il y a des lois qui sont particulières. Et les lois particulières ont une méthode d'adoption particulière. On a par exemple les lois organiques. Les lois organiques sont des lois d'organisation, c'est un peu des méta-lois d'organisation des pouvoirs publics qui précisent la Constitution, qui sont des lois qu'on ne change pas tous les matins, qui ont des méthodes d'adoption un peu particulières, un peu renforcées. Une majorité un peu plus forte, il y a des principes et tout, saisine du Conseil d'État, machin. Il y a les lois constitutionnelles, qui sont des lois un peu spéciales. Il y a les ordonnances, qui sont des types de législation spécifiques. Et puis il y a les lois budgétaires. Les lois budgétaires, que sont le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi de finances et de financement rectificatif, les projets de loi de règlement. Voilà, j'ai fait la liste, mais vous vous en foutez, peu importe. Tout ce qui concerne le pognon, il y a des procédures particulières d'adoption. En l'occurrence, le gouvernement a choisi de réformer les retraites via un projet de loi de financement rectificatif de la réforme des retraites. PLFRSS. Voilà, si vous voulez vous la péter, c'est son petit nom, PLFRSS. Il se trouve que les lois budgétaires, compte tenu de l'impératif de continuité de l'exercice de l'État, la nécessité de services publics qui fait qu'on ne peut pas se permettre de ne plus avoir de pognon du jour au lendemain parce qu'un accord n'a pas été trouvé au Parlement et tout, en gros pour éviter ce qui se passe aux États-Unis, vous savez, avec le blocage budgétaire, le non-relèvement du plafond de la dette, etc. En France, on a mis en place des méthodes spécifiques dans la Constitution et dans la loi organique. Qui permettent de rationaliser le débat parlementaire sur les lois budgétaires. Il se trouve que l'article 47-1 et suivant de la Constitution sont relatifs au projet de loi de financement de finances et de financement rectificatif de la sécurité sociale et prévoit un temps législatif spécifique d'examen de ce texte. Donc, ce qui va se passer, c'est très simple. Ce projet de loi aura pas plus de 20 heures de débat à l'Assemblée nationale. Les députés, en séance publique, auront 20 heures de débat. 20 heures pour défendre leurs amendements, pour apporter leurs arguments, etc. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 20 heures, la loi n'est pas adoptée? Eh bien, c'est pas grave. Elle passe... 20 jours, j'ai dit quoi? Non, 20 jours, 20 jours, 20 jours. Non, non, c'est 20 jours, pardon, excusez-moi. 20 heures, c'est short. 20 heures, ça fait 2 jours et demi. Non, c'est 20 jours, pardon. Excusez-moi. Non, non, vous avez raison. Pourquoi j'ai dit 20 heures? Je confonds avec quoi? Temps législatif programmé, je pense. Bref. Donc 20 jours de débat. 20 jours de débat. Si au bout de 20 jours, Ah, du coup, faut que je la refasse si on veut l'envoyer sur TikTok, celle-là. Mon monteur va péter un plomb. Des bisous, Pemf. Le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, il est prévu dans la Constitution que les députés n'ont pas plus de 20 jours de débat pour adopter en première lecture le texte. Si au bout de 20 jours, ils n'ont pas fini de discuter des amendements, etc., eh ben, c'est pas grave, le texte part au Sénat. Même s'il n'est pas fini, bah c'est trop tard, vous aviez 20 jours. Si en 20 jours, vous ne vous mettez pas d'accord, ça part au Sénat. Les sénateurs, eux aussi, ils ont un temps limité d'examen, je ne sais plus de combien de temps. Et au bout de ce temps-là, peu importe où on en est, on arrive en ce qu'on appelle l'étape de la commission mixte paritaire. Donc, on réunit des députés et des sénateurs pour négocier, essayer de se mettre d'accord. Et ensuite, on a une version finale du texte qui est votée. Je crois qu'au total, sur l'ensemble, c'est 50 jours, je crois. Non, c'est moins ça, je ne sais plus. Eh, on va faire un truc bien, c'est qu'on va aller lire la Constitution. Boum, boum. Il est où l'article 47? Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc le procès, c'est celui-là. L'Assemblée nationale a 20 jours en première lecture, puis on arrive au Sénat qui est à 15 jours, puis on continue le travail comme l'article 45, c'est classique, comme on fait les lois d'habitude. Et de toutes les façons, l'ensemble du processus ne peut pas excéder 50 jours. Au bout de 50 jours, s'il n'y a toujours pas de loi votée par le Parlement, alors ça passe par ordonnance et le gouvernement commence à mettre en œuvre sa loi. Loi que le Parlement est libre de changer plus tard s'il le souhaite, mais il va falloir qu'ils se mettent d'accord, quoi. C'est une sorte de speedrun, ouais, ça sert à garantir le fait que on peut pas. Est-ce que ça peut être moins long? Oui, ça peut être moins long. Oui, ça peut être moins long. Ça, c'est un maximum, il n'y a pas de minimum. Donc du coup, dans un mois et demi, 49.3. Il n'y a pas besoin de 49.3. Il n'y a pas besoin de 49.3. Il y a 50 jours max. Au bout de 50 jours, ça passe par ordonnance. En même temps, je dis ça, mais bon, une ordonnance, si la loi d'habilitation, ou si la loi de ratification plutôt, est pas adoptée, ouais, 49.3 quand même, hein. Donc quoi qu'il en soit, cette stratégie est très favorable à une adoption de cette loi. Oui. Comme tout projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est un dispositif spécifique qui garantit. En fait, c'est un dispositif qui garantit l'adoption d'une loi, quelle qu'elle soit. Charge aux députés et aux sénateurs de se mettre d'accord sur cette loi. Mais ça garantit qu'au bout du bout, en fait, ça garantit que nos retraités continueront à percevoir des pensions. C'est pas de la faute du retraité qui habite dans le département du Finistère si le Parlement n'a pas réussi à se mettre d'accord en 50 jours. Lui, tu vas pas arrêter de lui verser sa pension. Donc voilà. Pourquoi les retraites, ça entre dans ce cadre? Puisque notre système de retraite fait partie des caisses de la sécurité sociale gérées par le financement de la sécurité sociale. Voilà. Ça peut être utilisé combien de fois ce dispositif? Ah bah il n'y a pas de nombre de fois, hein, c'est la méthode de discussion des lois de financement de la sécurité sociale. Est-ce que tu serais prêt à faire une interview avec Laurent Berger pour en discuter? Bien sûr. Ah, moi j'ai plein de questions à poser à Laurent Berger, bien sûr, ça m'intéresse. J'ai déjà Philippe Martinez demain sur le plateau de Baxit, abonnez-vous. Merci pour vos dons. Ouais. Pourquoi dit-on que le président a de plus en plus de pouvoir aujourd'hui? C'est une question intéressante parce que on se rend compte que depuis juin dernier, c'est moins vrai. Oui, c'est moins vrai. C'est moins vrai que le président a plus de pouvoir, justement, parce qu'il n'y a plus de majorité. Mais pour faire simple, depuis les années 60, il y a un processus de présidentialisation de notre régime politique qui est le fait de la pratique politique, qui est le fait de l'évolution de la Constitution, qui est le fait de l'usage politique. Voilà, je rentre pas dans le détail, mais au fur et à mesure, on est rentré de plus en plus dans un système où le président de la République a beaucoup de pouvoir d'initiative, sans avoir beaucoup de contrepartie. Il n'est pas vraiment responsable, il n'est pas responsable devant le Parlement et tout, donc c'est plutôt tranquille pour lui. C'est une très bonne planque, un président de la République de la 5e. Et ça s'est encore renforcé en l'an 2000 avec le quinquennat, mais sans rentrer dans le détail, le président de la République a un très fort pouvoir d'initiative. C'est quasiment un président gouvernant dès lors qu'il a une majorité absolue. Ce qu'avait Emmanuel Macron au cours de son premier quinquennat, sauf que là, depuis juin dernier, le président ne bénéficie plus d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui fait que son pouvoir est un peu plus limité. La preuve, il est obligé de passer par des 49-3 pour faire adopter ses projets de loi de finances et de financement. C'est à quelle heure Baxit demain? C'est à 19h. J'ai peut-être pas bien écouté, mais ça rime à quoi de dire vous discutez pendant 50 jours, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, on fait comme on veut. C'est pas exactement on fait comme on veut, puisque c'est par ordonnance, donc il faudra quand même à la fin qu'il y ait une loi de ratification. Donc c'est pas au bout de 50 heures, je fais ce que je veux en fait. C'est je présente un projet, vous pouvez en débattre. Si au bout de 20 jours vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, bah, je saisis le Sénat. Vous pouvez continuer à discuter, mais je saisis le Sénat qui lui a 15 jours pour discuter. Et ensuite ça revient vers vous, on continue le schéma classique. Mais si au bout de 50 jours, j'ai encore dit 50 heures, pardon, putain, la fatigue. Excusez-moi. Il faut qu'on continue à verser les pensions des vieux et les remboursements des malades, etc. Donc on ne peut pas couper les vivres comme ça du jour au lendemain. Donc on passe par ordonnance. L'ordonnance, ça a quoi de spécial déjà? L'ordonnance, c'est une décision d'ordre des législatives qui est prise par le gouvernement avec autorisation préalable du Parlement et avec ratification post-entrée en vigueur par le Parlement. Donc si l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord pour rectifier l'ordonnance, ils peuvent très bien le faire. Les pensions seraient coupées sans ça? Bah, c'est le problème des lois budgétaires. Vous savez, les lois budgétaires, il faut les voter tous les ans, puisque c'est exactement comme dans une association, dans une entreprise et tout. Vous devez arrêter vos comptes, vous devez présenter vos comptes chaque année, faire un budget prévisionnel pour l'année suivante, et ainsi de suite. Si vous ne votez pas les lois de budgétaires, donc les lois d'autorisation de prélèvement et de dépenses, techniquement, il peut se passer le même problème qu'il y a aux États-Unis où l'État est bloqué. L'État n'a plus le droit de verser les salaires, l'État n'a plus le droit de dépenser d'argent, l'État n'a plus le droit de percevoir l'impôt non plus. Et comme on ne peut pas se retrouver dans cette situation-là, il faut que ça continue, il y a une nécessité de continuité de l'État. On a créé des règles spéciales pour éviter de se retrouver dans une situation où un désaccord entre les députés et les sénateurs entraîne l'effondrement du pays. Donc c'est pour ça. Une stratégie d'obstruction de la part des oppositions n'est pas forcément une bonne idée dans ce processus. Si ça, l'obstruction continue à avoir son intérêt, il faut bien comprendre à quoi sert la stratégie d'obstruction. L'obstruction parlementaire, c'est une technique de guérilla parlementaire qui consiste à flouder un projet de loi, une proposition de loi, d'amendement, de prise de parole pour ralentir les débats et empêcher. C'est un système de blocage. C'est vraiment une attaque par déni de service, hein. C'est vraiment un DDoS, législatif. Où tu déposes tellement d'amendements, tu prends tellement la parole, etc., que tu ralentis les débats pour empêcher le vote. C'est ça l'obstruction parlementaire. À quoi ça sert l'obstruction parlementaire? Ça peut servir à mettre la pression sur le gouvernement pour essayer d'obtenir le retrait du projet de loi. Alors, il y a des techniques anti-obstruction, hein, ça existe. Vote bloqué, etc. Je rentre pas dans le détail, mais ça existe. Mais ça marche pas toujours. Et puis ça peut aussi permettre à forcer le gouvernement à dégainer un 49-3. C'est exactement ce qui s'était passé en 2020, pardon, avec la réforme des retraites portée par Édouard Philippe, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'examen de sa réforme. Et entre-temps, il y a le Covid qui est arrivé, donc il a fini par passer en force avec un 49-3, ce qui est une forme de victoire pour les oppositions qui ont réussi à démontrer le caractère, enfin, un argument de plus sur l'antidémocratie, le fait que le gouvernement est autoritaire, qu'il n'écoute pas le Parlement, etc. Donc, est-ce que c'est utile de faire une stratégie d'obstruction? Oui, c'est toujours utile parce que ça permet de se faire le relais dans l'hémicycle des manifestants, des grévistes et des blocages pour la contestation. Après, l'obstruction parlementaire, on trouve toujours ça génial quand on est dans l'opposition, mais jamais quand on est au pouvoir. Est-ce que le vote de juin dernier pourrait avoir comme implication un renforcement de l'Assemblée et du Sénat dans le futur? Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. L'Assemblée et le Sénat ont de fait plus de pouvoir qu'auparavant, puisque le gouvernement est obligé d'essayer de négocier pour trouver des majorités. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui est en train de se passer, si vous regardez bien. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat en juillet dernier, le gouvernement l'a négocié et a réussi à obtenir des votes, et c'est comme ça qu'il a réussi à passer. Le projet de loi sur les énergies renouvelables, le gouvernement a fait beaucoup de concessions aux socialistes dans son projet de loi pour obtenir leur vote et ils ont dû construire comme ça. Sur la réforme des retraites, le gouvernement a négocié pendant toutes les vacances de Noël avec les Républicains pour essayer de sécuriser leur vote. Et les Républicains se sont dit satisfaits d'avoir obtenu ce qu'ils avaient demandé au gouvernement. Donc le Parlement, de fait, le Parlement a plus de pouvoir. N'y a rien pour contrer le 49-3, je trouve ça pas terrible, en tout cas. Si, il y a quelque chose pour contrer le 49-3, hein. Ça s'appelle la motion de censure. Il faut que l'opposition vote une motion de censure. Pourquoi le gouvernement a utilisé le 49-3 pour le budget plutôt que le 47 qui leur aurait permis de final de tout faire passer par ordonnance? Mais parce qu'une ordonnance, c'est pas un blanc-seing. Une ordonnance, c'est pas un blanc-seing. Une ordonnance, ça rentre en vigueur, certes, mais après, il faut faire voter une loi de rectification. Donc en fait, ça revient au même. Si t'as pas de majorité, t'as pas de majorité. Que tu l'aies pas maintenant ou que tu l'aies pas au moment de la loi de rectification de l'ordonnance, ça change rien. Spoiler, LR n'est pas une opposition. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Une motion de censure avec les Républicains dans la majorité, ça va pas servir à grand-chose. Effectivement. D'où l'intérêt pour le gouvernement de négocier avec les Républicains. En négociant avec les Républicains, ils s'assurent non seulement de leur vote, mais en plus du fait qu'ils ne voteront pas de motion de censure. C'est quoi la différence entre une loi et une ordonnance? En fait, c'est assez simple. Une loi, c'est voté par le Parlement. Une ordonnance, c'est le Parlement qui, plutôt que de débattre lui-même de la loi, dit au gouvernement, bah tiens, je t'autorise à faire une loi, à la faire entrer en vigueur, et tu reviens me voir avec ta loi une fois qu'elle a commencé à entrer en vigueur et je la valide. Ou pas d'ailleurs, enfin, voilà. C'est ça une ordonnance. Le gouvernement n'a pas le pouvoir législatif, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le gouvernement, les ministres, ils ont le pouvoir réglementaire. Ils peuvent prendre des décrets, ils peuvent prendre des décisions, des règlements, des trucs comme ça. Seul le Parlement a le pouvoir législatif. Mais le Parlement a le droit de déléguer son pouvoir législatif dans un temps donné et dans un domaine donné au gouvernement en lui disant vas-y, fais le truc, reviens me voir après et je validerai. Quel est l'intérêt de l'ordonnance? Les ordonnances, ça peut servir à gagner du temps. Ça peut servir à gagner du temps sur des sujets très techniques, par exemple. Il arrive en fait assez souvent, les ordonnances, il y en a très souvent, hein, mais c'est souvent sur des sujets techniques pas très importants. Je sais pas moi, par exemple, le gouvernement signe un traité international avec le Canada sur la pêche aux écrevisses au large de Terre-Neuve. Il faut modifier la loi, machin. Le Parlement dit au gouvernement, bon écoutez, on va pas débattre pendant des heures du sujet, faites une ordonnance sur le sujet, revenez nous voir, on validera, et puis c'est bon. Et on avance, quoi. Il y a des sujets plus importants. Est-ce que lors d'une niche parlementaire, on peut abroger ou modifier une ancienne loi? Bah bien sûr, c'est le principe d'une loi. Une loi, ça vient toujours modifier une loi précédente, hein. Techniquement, une loi, ce n'est rien d'autre qu'une modification du code source de la République. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, tu modifies un truc parce que tu estimes que ça a plus lieu d'être, qu'il faut le moderniser, que machin. Oui, modernise. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de 49.3 qu'un gouvernement peut utiliser? Oui. En dehors des lois budgétaires, le gouvernement ne peut utiliser qu'un seul 49.3, enfin qu'une seule, que le 49.3 qu'à l'occasion d'un seul texte par session parlementaire. Mais sur la loi budgétaire, il n'y a pas de limite. Comment l'Assemblée décide d'autoriser le gouvernement à faire une ordonnance? C'est le gouvernement qui lui demande en général. Par session parlementaire ou par an? Par session parlementaire. Ils peuvent l'utiliser plusieurs fois sur le même texte. Le 49.3, oui. Oui, le 49.3, je vous rappelle que c'est une procédure qui permet l'adoption d'un texte à l'Assemblée et à l'Assemblée seulement. Or, comme vous le savez, un texte fait plusieurs allers-retours devant l'Assemblée. Donc vous avez le droit d'utiliser le 49.3 plusieurs fois par texte. C'est pour ça que vous avez dû entendre dans les médias dire qu'Elisabeth Borne a utilisé le 49.3 à 10 reprises. En fait, elle ne l'a pas utilisé à 10 reprises. Elle l'a utilisé sur deux textes à 5 reprises à chaque fois. Ouais. Mais enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça dépend comment vous comptez. Vous comptez par loi ou par nombre de passages devant l'Assemblée. Il se passe quoi si l'ordonnance n'est pas validée? Eh bien, c'est le Parlement qui décide de changer l'ordonnance. Est-ce que le prochain gouvernement pourrait complètement changer le futur régime de retraite actuellement débattu? Bien sûr, évidemment, bien sûr. Un système de retraite, c'est jamais gravé dans le marbre. Aucune loi n'est gravée dans le marbre. Tout gouvernement, à l'avenir, dans les années 2030, 2040, 2050, pourra faire ce qu'il veut. Hein. Faut pas croire que là, ce qui est décidé, ça va pas être gravé dans le marbre éternellement. Peut-être qu'un jour, un autre gouvernement, d'une autre majorité, d'un autre président de la République, réformera les retraites pour aller dans un autre sens. C'est quoi les règles qui encadrent le PLFSS? J'en ai déjà parlé tout à l'heure un petit peu sur les procédures d'adoption. Peut-on faire plusieurs pour modifier plusieurs fois le même budget? Bien sûr, bien sûr. Les projets de loi de rectificatif, ce qu'on appelle un projet de loi rectificatif, c'est un projet de loi qui modifie le budget en cours. Donc ça modifie le projet en cours. Il y a un budget qui est en train d'être appliqué par le gouvernement, avec des budgets qui ont été votés, avec des impôts, etc. Et en cours d'année, on peut, si on veut, modifier le budget, baisser des impôts, les augmenter, augmenter des dépenses, les baisser, etc. Vous pouvez modifier le budget autant que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous avez plus de pognon, mais voilà, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Par exemple, au moment du Covid en 2020, il y a eu trois budgets rectificatifs la même année. Ça allait vite, hein. C'était à base de... Boum, fonds de solidarité, boum, chômage partiel, boum. On a craché du pognon cette année. Hein. Ouais, j'ai on, nous collectivement, hein, l'État. Plan de relance aussi. La Constitution, c'est quand même censé être gravé dans le marbre. La Constitution, c'est un texte plus difficile à modifier que les lois ordinaires. C'est même pour ça que c'est la Constitution. C'est qu'on peut pas. C'est plus difficile de la modifier, la Constitution. Donc ça peut pas être tous les matins, alors que des lois, tu peux en voter tous les matins, si tu veux. Est-ce que le PLFRSS est constitutionnel pour une réforme des retraites pas urgente? Qu'elle soit urgente ou pas, c'est constitutionnel de modifier. Enfin, oui, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça sert à modifier les règles de la sécurité sociale, donc les cotisations, les pensions, les arrêts maladie, les machins, oui, bien sûr, bah c'est à ça que ça sert. Hein. En quoi c'est plus difficile de modifier la Constitution? Parce que tu as besoin d'avoir un texte qui est adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, donc il ne peut pas y avoir le dernier mot pour l'Assemblée nationale, parce que tu es obligé de saisir le Conseil constitutionnel, parce qu'ensuite tu dois le faire passer devant le Congrès, il faut une majorité des 3/5 au lieu de la majorité absolue. Donc non, non, c'est plus difficile. Comment on définit les limites du PLFRSS? Les limites sont écrites soit dans la Constitution, soit dans la loi organique. qui précise les modalités d'adoption, etc. Il y a la jurisprudence du Conseil constitutionnel aussi qui limite le truc. Donc on peut pas tout faire, tout faire. Mais là, je vois pas ce qui sort du cadre, hein, complètement. Est-ce que certaines lois votées au Parlement ne sont jamais appliquées par des décrets? Et si oui, quel est le pourcentage? Je ne sais pas. Et ça n'a pas beaucoup de sens de mesurer comme ça. Là, on rentre dans les limites de la... On rentre dans les limites de la... du jugement quantitatif des lois. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, de compter le nombre de lois votées. En fait, il y a des lois qui sont structurantes et très importantes, comme il y a des lois très techniques et très spécifiques à un sujet, etc. Donc, la réforme des retraites, c'est une loi très importante. C'est dans le domaine économique et social, dans le domaine de la sécurité sociale et des cotisations et des pensions de retraite. Ça touche énormément de gens. Ça a un lien direct avec l'économie via les cotisations, etc. C'est une loi très importante. Une loi sur la sécurité, une réforme pénale, par exemple. Ça touche pas grand-chose au budget, mais ça a affaire aux crimes, aux délits, c'est important, les peines de prison et tout. Tu peux pas mettre sur un pied de comparaison une loi et une autre, ça dépend de quoi on parle. Et il y a des lois qui sont votées toute la journée sur des sujets extrêmement techniques. L'exemple que je te donnais tout à l'heure, le traité international entre la France et le Canada sur les quotas de pêche de homards au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, bon bah c'est une loi. Pas ouf, hein. C'est très important pour les pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, attention, hein. Mais bon, bah voilà, c'est une loi. Qu'est-ce que tu penses de l'article du Figaro sur le forum de Davos? Je l'ai pas lu. Est-ce que si Borne fait un 49-3 sur le PLFSS, le Parlement peut revenir dessus lors d'un amendement sur la deuxième partie du texte? Oui, sauf si elle réengage le 49-3 une deuxième fois. Je viens de découvrir votre chaîne grâce à l'émission de France Culture, Le Meilleur des Mondes. Je suivais seulement Canard PC. Et Klemovic, évidemment, le meilleur. Je souris avec ce retour des cours regrettés de Carcassonne. Ah, me parle pas de Carcassonne! C'est mon prof de droit constitutionnel, c'est lui qui m'a donné envie de faire du droit, tu te rends compte? Et je l'ai eu comme prof. Paix à son âme, il nous manque beaucoup. Merci, ça fait plaisir en tout cas. Mais attends, Le Meilleur des Mondes de France Culture, ils ont parlé de moi? C'est pas un 49-3 par session parlementaire. Non, c'est un 49-3 par texte. Enfin, tu vois, au cours d'un texte. Mais un texte peut avoir plusieurs utilisations du 49-3 au cours de son examen. C'est un peu subtil, mais... Je suis juriste en droit public et merci beaucoup de prendre le temps de bien expliquer la place des institutions dans notre République. Moi aussi, je suis publiciste. Courage, hein. Joie, amour et gageard. Est-ce qu'un traité a besoin d'être voté à l'Assemblée nationale? Un traité international a souvent besoin d'une loi de transposition, ce qu'on appelle une loi de transposition. C'est si quelque chose est décidé dans un traité international et que ça touche la loi, bah on doit modifier la loi pour se conformer au traité qu'on a signé. Voilà. Loi de transposition. Il est prévu que les zones de pêche au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, les bateaux n'ont pas le droit de naviguer à plus de telle vitesse, ils doivent avoir des filets de telle forme, ils doivent respecter des normes anti-pollution, machin. Bon, bah, on va modifier la loi en France qui prévoyait les normes de pollution pour les bateaux pour l'adapter à ce nouveau traité. Enfin, c'est un exemple que je te donne. Je continue à rester sur mes écrevisses. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. C'est vraiment l'exemple qui m'est venu en tête. Les écrevisses à Saint-Pierre-et-Miquelon. En plus, c'est pas des écrevisses, c'est des homards là-bas. Terre-Neuve et tout, c'est des homards, on est d'accord, c'est pas des écrevisses. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Ouais, c'est le homard. Mais c'est pareil, c'est des grosses crevettes. L'exploitation de la pêche, c'est compétence européenne. Donc Van Den Engelos, pas besoin de ratification. De transposition, et Van Den Engelos, c'est dans des conditions précises qu'il y a une application directe des directives. Ah, me chauffe pas là-dessus, hein. L'applicabilité en droit interne, l'applicabilité directe des directives européennes en droit interne. C'est des dizaines d'heures de révision sur ce sujet de merde. Oh là là, comment ça drop des arrêts du Conseil d'État dans le chat? Je travaille chez EDF. Qu'est-ce que l'État a le droit de faire sur l'entreprise étant actionnaire majoritaire? Bah, c'est lui qui dirige l'entreprise, donc il peut prendre des décisions. Comment on passerait à une 6ème République? Eh bah, ben, il faudrait changer la Constitution de la 5ème République. Donc les méthodes de modification de la Constitution, soit un congrès, soit un référendum. Quand est-ce que tu sors un livre pour nous expliquer la politique? Mais j'aime pas les livres, moi. J'aime pas les lire, alors j'ai pas envie de les écrire. Mais non, je fais des streams, c'est plus mieux. Donc que le Sénat soit à gauche. Ou qu'il soit d'accord. L'un ou l'autre. Grosse question, quelle 6ème République? Ah bah ça, je vous laisserai débattre, hein. Merci Sakyut pour ton Prime. Vous savez que vous pouvez utiliser votre compte Amazon pour vous abonner gratuitement à ma chaîne? C'est fou ça, ça s'appelle Amazon Prime. Chaque mois, vous pouvez vous abonner gratuitement. Il suffit de cliquer, c'est gratos. Abonnez-vous. Et si vous n'avez pas Amazon Prime, une simple carte bleue peut faire le travail aussi. Merci Pyrène, merci beaucoup. Comment les gens speedrun from nobody to député? Bah, il suffit d'une élection. C'est aussi simple que ça, hein. Tu peux être élu député à la prochaine élection si tu veux, hein. Faut que tu fasses campagne, faut que tu convainques les citoyens, les électeurs et tout, et puis hop, boum, t'es bombardé député en 24 heures. Je suis prof d'histoire en lycée, est-ce que tu peux venir un jour en classe pour parler de démocratie avec les élèves? C'est chaud, j'ai beaucoup de demandes et je peux pas malheureusement. Moi, je fais des streams tous les jours, c'est un peu compliqué de me déplacer, tout ça. Je suis désolé. Mais tu peux utiliser mes streams, tu peux utiliser mes vidéos, tu peux. N'hésite pas. C'est quoi Baxit? Attends, regarde, je vais te montrer. Tu vas halluciner. Hop. Baxit, c'est ça. Demain, en direct, sur Twitch, sur ma chaîne, à partir de 19h, une émission spéciale. Hop. On reçoit Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui viendra répondre à nos questions. Et avant ça, avec mes chroniqueuses. Demain, il n'y a que des chroniqueuses, c'est cool. On va discuter de l'actualité de la semaine. On a plein de trucs. On a aussi des chroniques, des jeux, des blagues. Ça va être cool. Le tout en plateau, en public. Que penses-tu du silence relatif de Marine Le Pen sur les retraites? Elle n'est pas silencieuse, Marine Le Pen, sur les retraites. Elle est opposée à la réforme des retraites. Elle est opposée à la réforme des retraites. Voilà. On verra si elle dépose des amendements. On verra plein de trucs. Est-ce qu'il y aura la vie d'Adèle demain? Oui, Adèle fera sa chronique, comme toutes les semaines. Il y aura Vincent Manilev aussi. C'est qui Martinez, le sosie de Junio? Ah bah bravo. Philippe Martinez, c'est le secrétaire général de la première organisation syndicale de France en nombre d'adhérents. Plus d'un demi-million, plus de 600 000 même. Est-ce que le chat pourra participer au quiz demain? J'espère. On est dessus. Est-ce que les frais de campagne des députés sont remboursés à l'instar de la présidentielle ou pas? Oui, mais dans des règles très encadrées. Qui est Claire? Claire Lejeune est une chercheuse en sciences politiques, par ailleurs militante écolo, qui fait partie de la génération climat, et qui d'ailleurs était candidate aux élections législatives en juin dernier, sous l'étiquette de la NUPES, dans le département de l'Essonne. Comment on devient président de la CGT? Alors, il n'y a pas de président à la CGT. Ils ont une organisation différente avec un secrétaire général qui est élu par le Congrès. C'est une organisation, c'est une fédération, c'est même une confédération. Et donc, il y a des votes des adhérents sur la ligne politique du syndicat. Voilà. Est-ce qu'un syndicat peut se présenter au présidentiel? Non, les organisations syndicales n'ont pas vocation, si je puis dire, à présenter des candidats aux élections. Les syndicats ne présentent pas de candidats aux élections. Ils ne sont pas là pour proposer des projets qui concernent l'État dans l'ensemble de ses compétences. Les syndicats se bornent, si je puis dire, à porter des propositions dans l'organisation du travail. Donc répartition des richesses, économie, solidarité, etc. Donc c'est large le travail, mais il n'y a pas tout quoi. Les syndicats n'ont pas de position vis-à-vis de l'international, par exemple. Les syndicats n'ont pas. FO n'est pas un syndicat. Si, Force ouvrière est un syndicat, à ne pas confondre avec Lutte ouvrière, qui est un parti politique qui présente des candidats. Est-ce qu'on peut faire partie d'un syndicat et d'un parti en même temps? Bien entendu, vous pouvez tout à fait être membre à la fois d'un syndicat et d'un parti et d'une association et de plusieurs associations, etc., etc. La CGT a une position très claire vis-à-vis de l'international. Méfie-toi, tu vas les trigger. Oui. C'est vrai. Pourquoi est-ce que les gens sont moins syndiqués qu'avant? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons un peu compliquées. C'est peut-être une question que je pourrais poser à Philippe Martinez demain, hein, d'explication de l'évolution du paysage syndical en France. Il y a un taux de syndicalisation assez faible en France, comparativement à d'autres pays, même si je vous invite à faire attention aux comparaisons, parce que le concept de syndicat n'est pas le même dans tous les pays, et donc on ne peut pas comparer les syndicats français dans le système français avec les syndicats dans les pays d'Europe du Nord, par exemple, c'est très différent. Fonctionne pas de la même manière. Donc faut faire gaffe à ça. Mais la puissance entre guillemets des syndicats ne se mesure pas seulement à leur nombre d'adhérents. Faut faire aussi attention avec ça. C'est pareil pour les partis politiques. Il n'y a pas que le nombre d'adhérents qui compte. Il y a aussi les scores aux élections. Or, il y a des élections professionnelles. Il y a des élections dans les comités d'entreprise. Donc il y a des élections professionnelles qui permettent de mesurer la représentativité des syndicats. Il y a les sondages d'opinion, d'adhésion ou de rejet aux positions des syndicats. Il y a des manifestants, des mobilisations aussi qui permettent de mesurer la représentativité des syndicats. Donc attention à ne pas faire l'erreur de prendre qu'une seule ligne d'analyse pour comprendre la complexité du sujet, quoi. Est-ce qu'on peut être membre éminent d'un gouvernement et syndicalisé? Membre important d'un syndicat. Membre du gouvernement, c'est pas un métier. Mais en général, c'est un peu incompatible quand même. Bah, tu peux pas. Non, tu peux pas être au service du gouvernement de la République tout en étant membre d'une organisation privée. Enfin, voilà, syndicale. Est-ce qu'un ministre peut faire grève? Non. C'est pas un métier, hein, un ministre. C'est une fonction. C'est pas un métier. Pourquoi l'État subventionne les syndicats? Alors, c'est pas tant l'État qui subventionne les syndicats que les organismes paritaires. Les syndicats, en fonction de leur représentativité obtenue dans les élections professionnelles, vous avez compris, ils vont siéger dans un certain nombre d'organismes de gestion de tout ce qui est géré de manière paritaire. Il y a plein de choses en France qui ne sont pas gérées par l'État, mais par les partenaires sociaux, notamment les caisses de retraite, les caisses d'assurance maladie, les caisses de chômage, etc. Il y a la formation professionnelle aussi, dans laquelle les syndicats jouent un rôle. Et donc, bref, dès lors que les syndicats sont élus dans ces trucs-là, ils bénéficient de financements pour leur permettre de fonctionner. Voilà. C'est quoi la différence entre un métier et une fonction? Un métier, enfin, ce qu'on appelle un métier, un salarié, c'est une personne qui fournit un travail à un employeur dans le cadre d'un contrat de travail. Donc c'est précis. Il y a des règles qui s'appliquent, il y a un statut du salarié qui est protégé par un code du travail, il y a des procédures, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, il y a des obligations, des devoirs et tout, qui sont propres aux salariés. À côté de ça, vous avez par exemple les mandats. Un député, un maire, un conseiller régional, c'est pas un métier. Il est salarié de personne. Il n'a pas de patron. Il a un mandat qui lui est donné par l'élection, par les électeurs, pour porter ses idées dans le cadre d'un parlement, d'un conseil municipal, d'un conseil régional, etc. Donc ce n'est pas un métier. Donc il relève pas du code du travail. Il relève d'autres codes de la fonction, pas de la fonction publique, non, des collectivités locales, de la Constitution, etc. Vous avez les fonctionnaires qui ne sont pas non plus des salariés à proprement parler. Les fonctionnaires ont un statut qu'on appelle le statut de la fonction publique. Ils sont investis d'une charge publique, d'une fonction publique comme on dit. Et il y a tout un tas de règles qui s'appliquent, spécifiques. Il y a un modèle de rémunération particulier avec un mode de calcul particulier. Ils ont un employeur particulier qui s'appelle l'État. Ils ont, enfin voilà, ils ont ou la collectivité ou l'hôpital, etc. Mais bref, donc un fonctionnaire n'est pas un salarié. Un salarié n'est pas un fonctionnaire. Un fonctionnaire n'est pas un mandat, n'est pas un élu. Un élu n'est pas un travailleur, et ainsi de suite. Et les ministres font partie de ce qu'on appelle les fonctions. C'est une fonction, ministre. C'est un rôle à jouer dans le gouvernement de la République. Ils sont membres du gouvernement de la République. Ils ont un rôle particulier. Mais la fonction de ministre ne fait pas d'eux des salariés. Ils n'ont pas de contrat de travail. Ils signent pas un contrat avec une rémunération, des obligations, des horaires et tout. Non, non. Ils ont une fonction qui leur est confiée par le président de la République, etc. Et je pourrais continuer la liste comme ça, hein. Les militaires, c'est aussi particulier, c'est des fonctionnaires particuliers. Il y a les volontaires en service civique qui ne sont pas des stagiaires, qui ne sont pas des bénévoles. Les stagiaires ne sont pas des volontaires, qui ne sont pas non plus des. Enfin, voilà, il y a des statuts différents qui impliquent des responsabilités, des organisations, des régimes juridiques différents. Et donc voilà, un stagiaire n'est pas un salarié, c'est un stagiaire. Et en plus, je rentre pas trop dans le détail parce qu'en plus, on pourrait aller du côté des assimilés fonctionnaires dans les entreprises publiques et tout. On va y aller mollo, hein. Concernant le gouvernement, est-ce qu'il est forcément issu du groupe majoritaire à l'Assemblée? Si après une hypothétique dissolution, Ensemble se retrouve en minorité, mais avec une opposition trop divisée pour voter une motion de censure, est-ce que Manu pourrait quand même nommer un PM Ensemble? En fait, tu as effectivement compris la subtilité. On se fout de savoir d'où vient le Premier ministre. C'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il ait le soutien de la majorité. Donc il peut venir d'un autre parti ou d'aucun parti, ça change rien. Regarde Édouard Philippe. Édouard Philippe n'était pas membre de la majorité. Et on s'en fout. Il avait le soutien de la majorité. Voilà, ça règle la question. Fin du débat. Donc il peut venir d'où tu veux, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il ait un soutien. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, en cas d'opposition divisée, etc., oui, ça peut être un député issu d'un groupe minoritaire, c'est possible, complètement possible. Les militaires comme moi, nous sommes assimilés fonctionnaires, mais pas fonctionnaires, c'est différent. Oui, tu as raison. Militaire, c'est très spécifique en plus, hein. C'est très particulier, militaire. Ils ont une solde, c'est un traitement, mais c'est un peu différent, c'est un régime juridique particulier et tout. Mais t'as raison, ouais, non, c'est spécifique. Est-ce qu'ils peuvent même venir de l'étranger? Je crois qu'un ministre doit être de nationalité française, je crois. Il y a des obligations, hein. Une solde, ça dépend du logiciel qui paye, oui. Oui. Quid de l'affaire des ministres des Affaires étrangères étrangers? Mais il était d'origine étrangère, mais il était naturalisé. Mais oui, tu peux être binational, mais ça, on s'en fout. Ça, tu peux avoir d'autres nationalités, on s'en fout, ça change rien. C'est quel jour les QAG? C'est le mardi. En direct sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Est-ce qu'un Premier ministre peut avoir un casier judiciaire? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. Est-ce que le passage de la réforme des retraites par un PLFRSS pourrait être considéré comme un cavalier législatif et donc faire l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel? Non, non, je vois pas. C'est pas un cavalier. Ce qu'on appelle un cavalier législatif, je vais expliquer aux gens qui nous écoutent, mais un cavalier législatif, en gros, c'est quand tu votes une loi et que dans la loi, tu glisses un article sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Genre, tu es en train de réformer le code de la route. Donc tu prévois des vitesses de circulation de bagnoles, des scooters, des trottinettes. Enfin, tu votes une réforme du code de la route et dedans, tu glisses un article sur, je sais pas, les quotas de pêche, un truc, mais qui n'a rien à voir. Ça, c'est interdit. Ça, le Conseil constitutionnel censure. On appelle ça un cavalier législatif. Hop là. C'est pas une question de savoir si la mesure est bonne ou pas bonne, c'est juste qu'elle peut pas être débattue comme ça, sortie de rien, machin. C'est ça qu'on appelle un cavalier législatif. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale, que ce soit rectificatif ou initial, peu importe, ça sert à modifier les règles de la sécurité sociale. Donc, les durées de cotisation, les montants de cotisation, les montants de pension, les exceptions, les régimes. Donc non, je suis désolé, un projet de loi qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite peut tout à fait passer par un PLFRSS. C'est ma première réponse, ma première approximation. Ça me paraît, oui, bah oui, non, c'est normal. Est-ce qu'un ministre peut être nommé même s'il est sous peine d'inéligibilité? Techniquement, oui, puisque ministre, ce n'est pas un mandat. Donc, il n'est pas élu. Un ministre est nommé. Il n'est pas élu. Il est nommé. Est-ce qu'on a déjà vu un projet de loi avec un seul article? Bien sûr, il y a des projets de loi avec un seul article, hein. Je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que l'abolition de la peine de mort. Ah non. Il y avait 9 articles. Tiens, je savais pas. Regardez. Je vous présente la loi du 18 janvier. Ah non, ça c'est le 2023, pardon. La loi du 9 octobre 1981 sur l'abolition de la peine de mort. Article 1, la peine de mort est abolie. Ça a le mérite d'être clair. Article 2, les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle ou la cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison d'un gage d'amendement qu'elle a pu fournir. Ah oui, d'accord, ça c'est la réhabilitation. Ouais, d'accord. Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné. Article 4, les articles machins sont abrogés. Donc ça, je sais pas ce que c'était, mais ça devait être des articles, je sais pas, techniques qui prévoyaient les modalités de la peine de mort, je suppose. Le numéro 1 de l'article 7 du code pénal est supprimé. Les articles 2, 3, 4, 5 deviennent les articles 1, 2, 3, 4, d'accord. Les articles 336 et 337 du code de justice militaire sont abrogés. Ça devait être la peine de mort dans le code militaire. Article 7 a modifié les dispositions suivantes. La présente loi est applicable relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ok. La condamnation à la peine de mort prononcée après le 1er novembre 1980 sont converties en peine de droit suivant la nature, etc. Voilà. Donc 9 articles. Bon, bref, c'est un exemple que je vous donnais. Je pensais qu'il y avait qu'un seul article, parce que je me souviens évidemment, l'article 1 est très célèbre, hein, la peine de mort est abolie. Voilà, 6 mots. Fabius a déclaré que les mesures sur la pénibilité du travail seraient probablement traitées comme des cavaliers législatifs parce qu'elles n'ont rien à voir avec le texte budgétaire. Alors ça, c'est autre chose. Oui, tu as raison. Tu as raison. Ouais, parce que oui, non, c'est vrai. La réforme présentée par Elisabeth Borne, il n'y a pas que le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Il y a d'autres trucs. Il y a aussi l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation en 2030 plutôt que 2035, bref. Et il y a aussi effectivement des mesures sur la pénibilité, sur le travail des seniors, etc. Effectivement, il est possible que le Conseil constitutionnel considère comme un cavalier législatif des mesures qui relèveraient normalement d'une loi ordinaire. Donc ça veut dire que le Parlement ou le gouvernement devra proposer une projet de loi ordinaire avec ces trucs-là. Moi, il m'avait semblé que c'était ça plutôt la procédure qui aurait pu être suivie. Ben, on verra. Mais oui, ces trucs-là pourront peut-être ne pas passer le Conseil constitutionnel, auquel cas il faudra le faire passer par une loi ordinaire. Voilà. À Skip, avant, on utilisait très fréquemment le 49.3. Pourquoi ça choque aujourd'hui? Il y avait des raisons de justification de son usage. En fait, le 49.3, c'est un texte qui... En fait, le problème, c'est que je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique ce que c'est que le 49.3, mais je l'ai faite il y a plusieurs années. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs des vidéos sur le 49.3. J'en ai fait un qui datait de... Une vidéo qui datait de 2017, que j'ai supprimée. J'en ai fait une en 2019. Et j'en ai refait une là en 2021, en 2022. Le problème, c'est qu'en fait, le 49.3, c'est un article de la Constitution qui a des usages différents. Il y a plusieurs types d'usages de 49.3. Il y a plusieurs raisons d'utiliser le 49.3. Il y a plusieurs conditions dans lesquelles on peut utiliser un 49.3. Il y a plusieurs réceptions du 49.3. Et ça change en fonction du contexte, de l'histoire, du paysage politique, etc. Il se trouve que le 49.3 a été utilisé assez régulièrement par un gouvernement qui était le gouvernement de Michel Rocard entre 1988 et 1993. Ce gouvernement a eu souvent recours au 49.3. Mais à l'époque, c'était différent. Le paysage politique n'était pas le même. La majorité avait une majorité relative et ils arrivaient à construire des majorités absolues en séduisant deux, trois bonhommes, etc. Mais ils avaient une majorité très courte, ce qui fait qu'en fait le recours au 49-3 à l'époque n'était pas vécu comme une brutalité démocratique. C'était une espèce de facilité de procédure, on s'en fout un peu, on avance. Et ça, il n'y avait même pas d'article dans les journaux à l'époque sur le 49-3, ça intéressait pas vraiment les gens, c'était pas très grave, on parlait d'autres sujets, mais... Le 49.3 choquait pas parce que l'usage était différent. Voilà, c'était très administratif, on les faisait à la chaîne et tout. Mais le 49.3 a évolué. Avec le temps, le 49.3 a évolué. Il y a eu plusieurs types de 49.3 qu'on ne peut pas tous comparer les uns aux autres. Le 49.3 de 2005 sur la réforme du contrat première embauche, c'était très particulier. Le 49.3 de la loi Macron 1, ce n'est pas le même 49.3 que le 49.3 de la loi El Khomri sur la réforme du travail. Le 49.3 de la réforme des retraites en 2020, bah, c'est dans un contexte de Covid et d'obstruction parlementaire, donc c'est particulier. Le 49.3 d'Elisabeth Borne au cours des lois budgétaires de la fin de l'année dernière, c'est particulier. Voilà, donc y a 49.3 et 49.3. Est-ce qu'il existe des systèmes similaires au 49.3 dans d'autres pays? Je ne sais pas, sans doute. Ça dépend tellement des pays, ça dépend de leur mode de fonctionnement, de leur tradition juridique. Dans les pays de common law, donc en gros le Royaume-Uni et les anciens pays du Commonwealth et les États-Unis, plus les États-Unis, ils ont un fonctionnement politique tellement différent. Aux États-Unis, ils ont des executive orders du président de la République. C'est très particulier, c'est très particulier les États-Unis. Ça fonctionne pas de la même manière. Il y a des mots qui n'ont même pas de traduction en français parce que c'est dans leur système politique. Et dans les autres pays, j'avoue ne pas trop savoir. Il y a peut-être des pays qui ont des systèmes similaires au 49-3. Voilà. Un peu moins maintenant, mais avant, on entendait beaucoup parler du 49.3. J'ai cru comprendre que dans ce cas, l'Assemblée nationale ne votait pas un texte, mais la capacité du gouvernant à diriger le pays. Alors pourquoi l'Assemblée persiste à chaque fois à voter en faveur du gouvernement? En fait, c'est un tout petit peu plus spécifique que ça. L'Assemblée ne vote pas la confiance au gouvernement. Elle ne vote pas la défiance. C'est pas la même chose. Tu vois la différence entre les deux? Le gouvernement n'a pas besoin d'avoir une majorité qui le soutient, elle a besoin d'avoir une minorité qui s'oppose. À défaut de réussir à faire voter son texte, elle demande aux députés s'il y a une majorité de député qui veut le départ du gouvernement. En gros, imaginez-vous à l'Assemblée générale d'une association. Voilà. Donc vous avez une trentaine d'adhérents qui sont dans une salle, qui sont en train de voter, etc. Soit un candidat à la présidence de l'association dit qui vote pour moi? Et là vous avez une majorité de mains qui se lève. Et s'il y a une majorité, bah il vient d'être élu, bravo. Soit il pose la question différemment, il dit qui est contre le fait que je devienne président? Et là, s'il y a une majorité de mains qui se lève, bah, il n'est pas président, il dégage. Mais par contre, s'il y a une minorité de mains qui se lève, eh ben, on considère qu'il est président. Et bah, c'est ça la motion de censure. Une motion de censure, c'est comme son nom l'indique, c'est un texte. En fait, le mot motion de censure, c'est un mot compliqué. On devrait appeler ça la lettre de licenciement. Voilà, on va appeler ça la lettre de licenciement. Qui est pour le licenciement du gouvernement? C'est un ratio, c'est exactement ça, c'est un ratio. Qui est pour le licenciement du gouvernement? Voilà. Qui vote la lettre de licenciement? Eh bien, s'il y a une minorité de mains qui se lève, ben, le gouvernement n'est pas licencié. C'est fou comme la politique serait plus simple si on utilisait les mots simples. Que tout le monde comprend. Est-ce qu'un gouvernement a déjà été ratio du coup? C'est déjà arrivé une fois en 1962. Oui. Sauf que ça fait adopter une loi au passage. Exactement. C'est le principe du 49-3. C'est que non seulement, s'il n'y a pas de motion de censure adoptée, non seulement le gouvernement n'est pas viré, mais en plus, sa loi est considérée comme adoptée à l'Assemblée nationale. Après, elle va au Sénat et ainsi de suite. En 1962, De Gaulle s'est fait ratio. De Gaulle n'était pas Premier ministre. Il était président de la République, mais oui, c'est fait ratio, ouais. Enfin, son premier ministre, c'est fait ratio. Je sais plus si c'était qui d'ailleurs son premier ministre à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un équivalent du 49-3 au Sénat? Non, il n'y a pas d'équivalent du 49-3 au Sénat. Le gouvernement ne peut pas utiliser le 49-3 au Sénat. Ouais, c'était Pompidou, j'étais en train de me demander. En fait, c'était Pompidou. Ouais. Pompidou a été viré. Enfin, du coup, motion de censure adoptée. Et il est devenu président dans la foulée en 70, 71. Faire ratio. Non, faire ratio, c'est une expression sur Twitter. Peu importe. Excusez-moi. C'est vrai qu'il y a les gens qui sont pas sur Twitter, ils ont pas la ref. C'était en 69 après le référendum. La présidentielle, elle a eu lieu dans la foulée de la démission de Gaulle, donc ouais, dès 69. Pompidou, son gouvernement est tombé, mais De Gaulle l'a renommé juste après. Oui, mais oui, et puis surtout, il a dissous. J'ai jamais vraiment compris la différence Assemblée nationale-Sénat, député et sénateur. Il y a des partis politiques élus aussi. En fait, pour faire très simple, l'Assemblée nationale et le Sénat ont globalement un rôle similaire parce qu'ils font la loi, ils contrôlent l'action du gouvernement, ils posent des questions au gouvernement, etc. Donc en fait, dans l'exercice au quotidien, il n'y a pas grand-chose qui change. Ce sont deux chambres différentes, les députés d'un côté, les sénateurs de l'autre, mais leur pouvoir est le même. Ils débattent des lois, il y a des amendements, etc. Machin. La différence entre les deux, elle est importante dans le mode de désignation. Les députés, comme ils sont élus directement par nous, ils ont une légitimité très importante en démocratie qu'on appelle la légitimité du suffrage universel direct, alors que les sénateurs, ils sont élus indirectement, puisqu'ils sont élus par les élus locaux, notamment les maires, etc. Donc la différence du mode d'élection donne une différence de légitimité entre les deux chambres, ce qui fait que l'Assemblée nationale est un peu plus importante que le Sénat. Et ça veut dire quoi qu'elle est un peu plus importante? Ça veut juste dire qu'en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, dans la plupart des cas, pas dans tous, mais dans la plupart, l'Assemblée nationale a le droit d'avoir le dernier mot. Elle n'est pas obligée de chercher à l'avoir tout le temps, elle peut aussi négocier et discuter, mais elle peut avoir le dernier mot. Mais une fois que je t'ai dit ça, en fait, pas besoin d'entrer beaucoup plus dans le détail. Les sénateurs représentent les territoires, les collectivités locales, etc. Les députés représentent le peuple par l'élection directe. On pourrait supprimer le Sénat pour garder que l'Assemblée nationale pour faire des économies de personnel. Pardon. On pourrait supprimer le Sénat. Est-ce qu'on ferait des économies? Oui, on économiserait 300 millions d'euros, je crois, par an. Sur un pays qui crée 1 000 milliards d'euros de richesse par an. C'est pas ouf. Est-ce que ce serait mieux si on supprimait le Sénat? Bah, c'est une question qu'on peut se poser. On a déjà eu dans l'histoire de France des périodes où il n'y avait qu'une seule chambre, il n'y en avait pas deux, et on a vu que ça donnait pas des bons résultats. Donc on préfère avoir deux chambres, historiquement. 2 000 milliards, oui, en plus 2 000 milliards, pardon. Excusez-moi. 2 000 milliards. Par ailleurs, est-ce qu'on aurait un meilleur système politique si on n'avait pas de représentation des territoires dans le processus législatif? C'est un point de vue qu'on peut défendre si vous voulez. La démocratie mise bout à bout, c'est 1 milliard. Ouais, on avait déjà fait le calcul et effectivement, notre système politique, la démocratie, ça coûte 1 milliard d'euros par an. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Alors qu'en vrai, il faudrait une troisième chambre pour ajouter la société civile. Oui, il faudrait une troisième chambre. Enfin, il y en a déjà une qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Techniquement, ce n'est pas une chambre du Parlement, c'est un conseil, mais il a un rôle intéressant. Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir au CESE? Sans doute. Est-ce qu'il faut que le CESE intervienne dans le processus législatif? Peut-être. C'est à discuter, hein, voilà, c'est mon point de vue. Après, enfin, moi j'ai un point de vue plutôt favorable à la participation des citoyens, mais enfin, ça, c'est mon point de vue à moi. Il y a plein de gens qui sont contre, pour plein de raisons et tout. 3 milliards en prenant en compte les collectivités locales. Oui, si, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, il faut prendre en compte les collectivités dans leur fonctionnement et tout. Oui, tu as raison. Si on rajoute tous les conseils régionaux, tous les conseils départementaux et tous les conseils municipaux, effectivement. Tu compares avec le PIB, il serait plus juste de regarder par rapport au budget de l'État. Oui, bah si tu veux, regarde. Hop là. Le budget de l'État, 200, c'est 300 milliards d'euros. Le Sénat, ça coûte 300 millions. Donc ça fait 1%. Non, 0,1%, pardon. On peut considérer que ça fera des économies, hein, mais je. Ça vient d'où ce chiffre de 300 millions par curiosité? C'est le budget de fonctionnement du Sénat. Budget du Sénat, c'est. Tac, 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 tac. 300. Ah, c'est 350 millions d'euros, autant pour moi. C'est 350 millions d'euros. Le jardin du Luxembourg, à lui tout seul, il coûte 12 millions. Hein. Oui, parce que le Sénat s'occupe du jardin du Luxembourg. On s'en branle, mais. Je pense que la mairie de Paris, elle est contente de ne pas avoir à s'occuper du jardin du Luxembourg. Surprise, maintenant c'est toi qui gères. Ah non, non, ah non, 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 vous faites chier. Non, non, ça va alourdir de 12 millions d'euros mon budget, espace vert là. Ah non, 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 démerdez-vous. Hein. Jardin des sénateurs, là, ça va. Hein. Après, ça rapporte avec les touristes. Jardin Luxembourg, c'est pas payant l'entrée, hein. C'est gratos, vous pouvez y aller demain si vous voulez. J'y vais et je visite le Sénat samedi. Sérieux? C'est cool ça. 12 millions d'euros? Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans le... Parce que... Ouais, après, non, je sais, il y a les serres et tout, il y a des fleuristes. Mais il y a 12 millions d'euros pour un jardin. Enfin, je veux dire, le jardin du Luxembourg. Pas si vous avez déjà vu le jardin du Luxembourg, mais c'est... Pas non plus... Voilà, c'est ça le jardin du Luxembourg. Il y a du gravier, il y a de la pelouse. Bon, c'est vrai que les fleurs... Non, c'est vrai que les fleurs sont jolies. Non, c'est vrai. C'est vrai que les fleurs, elles claquent. En même temps, à 12 millions d'euros de budget, t'as intérêt à avoir du fleuriste de compétition. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gravier. Tout ça, c'est du gravier. Hein. Tout ce qui est en blanc, c'est du gravier. Là, c'est vaguement des arbres. Après, je crois qu'il y a les serres ici. Non, il y a des trucs, il y a des trucs. J'admets qu'il y a des trucs. Nous, on allait fumer des clopes hein, quand on était étudiant, juste à côté à la Sorbonne. Non, non, c'est vrai que les fleurs, quand même, les fleurs. Les fleurs, elles claquent. Est-ce que les petits bateaux sont gratuits? Non, les petits bateaux sont pas gratuits. Alors moi, franchement, maintenant que je sais que ça coûte 12 millions d'euros, je pense que franchement, on pourrait mettre des petits bateaux gratuits. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je serais président du Sénat. Petits bateaux gratuits. Ah, dans 12 millions d'euros, tu as bien trouvé mille, même pas 100 balles. Dis petit bateau. Bon voilà, après il y a des sculptures et tout. Non, mais je veux bien. Ok, ça demande de l'entretien. Oui, c'est un jardin. Là, vous avez le palais du Luxembourg, le Sénat, là, le resto, il est là, machin. Ok, très bien. Mais bon, voilà. Enfin, je veux dire, l'hiver, c'est tout pourri, quoi. Non, ça c'est pas le Sénat, ça c'est les Tuileries, ça, rien à voir. 12 millions, mais qu'est-ce qu'il branle avec 12 millions? Il y a un resto Crous pas loin. Ouais, il y a carrément un resto Crous, hein. Regarde. Il faut que je te retrouve. Hop. Le jardin du Luxembourg, il est là. Et le resto du Crous, il est là. Ici, là. Crous Paris. T'es mal à gueule du Crous. On vient de la cantoche du Crous. Let's go le Crous. Les pizzas du Crous. La tarte aux framboises du Crous. Vous savez, celle qui donne la gastro. Oh, ça va, je troll. La machine à café du Crous, c'est tout. C'est un clafoutis. Ah, pardon. Seulement 11,1 millions sont exécutés, 10,8 millions de fonctionnement et 300 millions d'investissement. Non, 300 000 d'investissement. Oui, mais tant mieux. Jure, le Crous de Port-Royal. Mais ouais, le Crous de Port-Royal. Big up à tous les étudiants qui connaissent, hein. C'est un truc d'étudiant parisien, si vous connaissez pas, c'est pas grave, vous avez pas raté grand-chose. Hein. Comment on fait pour visiter l'Assemblée nationale et le Sénat? Faut être invité par un député sénateur. Alors oui, mais ça a changé. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, elle a annoncé qu'elle avait un objectif. Elle avait fixé un objectif de 1 million de visiteurs par an. À l'Assemblée nationale, c'est une multiplication par 4, je crois, du nombre de visiteurs annuels. Donc, je crois qu'elle a un peu simplifié le truc. Avant, il fallait une invitation, c'était compliqué. Visite de l'Assemblée nationale. Dans la démarche d'ouverture de l'Assemblée nationale, des visites individuelles sont introduites pour permettre au grand public de découvrir le Palais Bourbon aux côtés des groupes invités par les députés. Les visites individuelles sont gratuites, par groupe guidé ou audio guidé, et ouvertes dans la limite des places disponibles. Elles se font sur réserve de l'ordre du jour de l'Assemblée et nécessité de sécurité. Seul le message de confirmation de votre visite, qui peut intervenir jusqu'à quelques jours après votre demande, vaut accès à l'Assemblée. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire. D'ailleurs, je vous conseille de le faire. Enfin voilà, si vous êtes de passage à Paris avec un pote, avec votre meuf, avec votre famille et tout, plutôt que de se faire un musée, un cinoche et tout, petite visite de l'Assemblée, vous vous inscrivez, vous attendez par mail une confirmation, et youpla boum. Bon, il y a une fouille à l'entrée, carte d'identité, tout ça, bon bref, vous vous doutez, hein, c'est les bâtiments de la République, mais en vrai... C'est cool. Et si vous avez un groupe, des élèves, des étudiants, des potes, une assoce, etc., et que vous voulez visiter, faites une demande à un député. Vous demandez une visite de groupe. Nous, on l'avait fait avec la commu. On avait fait visite de l'Assemblée en groupe avec le chat. C'était trop bien. C'est-à-dire, on avait fait ça en 2018. Into apéro. Sinon, il y a les journées portes ouvertes. Il y a les journées portes ouvertes, effectivement, ça existe. Il y a les journées du patrimoine aussi, c'est vrai, ça existe. Qui est chaud pour une visite entre Massy et Zouz? Non, mais ouais, on le refera. On le refera carrément quand il fera un peu plus chaud. Parce que ce qui l'intéresse, c'est qu'en face de l'Assemblée, il y a les quais de Seine qui ont été piétonnisés par Hidalgo. Et du coup, maintenant, il y a des buvettes, il y a de la bière, il y a de l'alcool, c'est cool, on peut bouffer des pizzas. Donc l'été, c'est cool, quoi. Il fait un peu froid là. Juste pour te dire que je kiffe de ouf ce que tu fais, tu sers l'intérêt du monde, grand gourou. Merci, ça me fait super plaisir. Merci. Si vous kiffez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à faire un don à Baxit. Baxit, mon émission du jeudi. Demain, je vous rappelle qu'on reçoit le secrétaire général de la CGT à l'issue de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Philippe Martinez, qui sera sur mon plateau. Et n'hésitez pas à faire un don pour soutenir l'émission qui a besoin de son public pour être financée, pour rémunérer l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les émissions, de l'édito à la réalisation, en passant par la logistique, la technique, etc. C'est à quelle heure? C'est à 19h. L'émission commence à 19h, elle finit à 22h. C'est pas complet pour venir dans le public. Ce n'est pas complet, vous pouvez encore venir dans le public. D'autant que demain c'est la grève, donc j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde dans le public parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas venir à Paris, etc. RER, métro, tout ça. Du coup, j'en profite pour vous dire que si vous avez déjà fait un don pour Baxit avant que les places soient disponibles et tout, et que vous avez fait un don supérieur à 50 euros, déjà merci. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez venir demain. Si vous êtes parisien, si vous pouvez venir à pied dans le quartier Gambetta dans le 20e, si c'est cool et tout, si vous êtes en vélo, en trottinette, machin. Si vous voulez venir dans le public demain, que vous avez déjà fait un don, envoyez-nous un mail. Envoyez-nous un petit mail. Mais comment on fait un don pour Baxit? Tu vas sur utip.io/JeanMassier. Hop. Là, tu cliques sur faire un don. Ou alors tu vas dans le shop, et dans le shop, tu peux acheter des goodies qui sont en réalité des dons enfin, voilà, pour aider au financement de l'émission. Je crois qu'il y a 20 euros qui vont à l'émission quand tu achètes un mug, il y a 30 euros quand tu achètes un sweat, 25 euros quand tu achètes un t-shirt. Et tu peux aussi venir dans le public demain avec un don de 49 euros et 30 centimes. MDR 49,3. Et du coup, vous aurez l'opportunité de boire des coups avec Philippe Martinez. Alors, je ne sais pas s'il restera longtemps après l'émission, mais on lui proposera un petit coup à boire, après avoir marché toute l'après-midi. Est-ce que tu as des sponsors pour l'émission? On est en train de... Ouais, il y en a plusieurs qui nous ont démarché, donc ça va arriver, ça va arriver. Je suis content, il y a des... y a des... ouais, y a des sponsors, des partenaires financiers qui... Voilà. Pourquoi 32,34€ le mug? Parce qu'il y a 20 euros dedans, de dons à Baxit en fait. C'est pas, évidemment, c'est très cher pour un mug, mais vous achetez pas un mug. Vous participez au financement de l'émission et en échange, vous avez un mug chouette. Le CNB t'a-t-il contacté pour un partenariat? Le Conseil national du barreau, non, mais moi je suis chaud, hein. Le Conseil national du barreau, s'ils veulent venir faire un before de Baxit en partenariat pour parler des métiers de la justice et des avocats et tout, pour parler des points d'accès au droit, machin, tout ça, let's go, hein. Moi, je suis très très chaud. Est-ce que les sponsors viendront s'ajouter à la cagnotte? Oui. Oui. La cagnotte à elle toute seule n'est pas suffisante pour financer l'ensemble de l'émission. Mais je ne voulais pas faire reposer l'ensemble du poids du financement de l'émission sur son seul public. C'est quoi le CNB? C'est le Conseil national du barreau. L'ordre des avocats, quoi. Faire simple. En vrai, l'administration pénitentiaire, je pense que tu peux la ping, elle adorerait, je pense. Ouais, alors moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais en discussion avec le ministère de la Justice pour faire des émissions en partenariat, pour discuter des métiers du droit, justement. Des métiers méconnus, devenir magistrat, avocat, il y avait la fonction publique pénitentiaire, il y avait les greffes, tous les métiers administratifs qui existent aussi dans la justice. Et moi j'étais chaud, mais ils avaient annulé le partenariat la semaine d'avant parce qu'il y avait une grève des avocats, du coup ils m'avaient dit non, c'est sensible et tout. J'aurais dit bah franchement vous êtes relou parce que si au motif que c'est sensible, faut pas en parler. Bon, donc du coup on n'avait jamais retravaillé ensemble. Donc voilà, donc si vous êtes avocat, si vous connaissez des gens au barreau, tout ça, qui veulent parler aux jeunes pour leur dire, regardez, la justice, c'est cool, devenez avocat, ou alors consultez vos avocats, et eh ben n'hésitez pas. D'une manière générale, hein, merci pour votre soutien à Baxit, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il prend. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos retweets, pour vos partages, merci pour vos dons. Et merci aussi aux personnes qui glissent un mot dans leur entreprise, aux gens qui connaissent et tout, qui cherchent de l'exposition sur Internet. En disant, hey, tu connais Baxit, trop bien, ils cherchent des sponsors, ça pourrait être cool, machin. Des présidents de micro-partis atypiques, t'y as pensé? Non, je veux pas être financé par des partis politiques, quels qu'ils soient. Aussi atypiques soient-ils, je refuse. Je te rassure, on ne me l'a jamais proposé, mais non, je ne veux pas recevoir d'argent de la part de partis politiques. Les ONG éventuellement. Non, je parle d'invités. Ah, pour les invités! Ah oui, non, bah pour les invités, ça dépend de l'actu. Est-ce que tu as pensé un jour de la politique d'autres pays? Bah je le fais, je le fais. On a parlé du Royaume-Uni au moment de Liz Truss, on a parlé des États-Unis avec Biden et les élections de mi-mandat. Voilà. Pourquoi t'inviterais pas Bernard Arnault pour qu'il explique qu'il n'est pas vraiment si riche? Bernard Arnault, il fait aucune interview. Hein. Je vois pas pourquoi il viendrait sur Baxit. Hein. Tu vois, j'ai même pas eu le réflexe de penser à l'inviter. Non, il viendra pas Bernard Arnault. Non. Ça va, à mon avis, il faut être assez lucide là-dessus. Quel état ou ton invité de rêve pour Baxit? Bah, moi, à mon avis, bah, typiquement demain, Philippe Martinez. Secrétaire général du premier syndicat de France, à l'issue d'une journée de mobilisation nationale, je peux pas rêver mieux comme invité. Enfin, tu vois, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour Baxit. C'est au moment où ça a de l'actu, au moment où ça a du sens, recevoir les gens qui font l'actu, qui y participent, recevoir les ministres quand ils sont en train de défendre un truc, recevoir les députés, les présidents de parti, les personnalités médiatiques, enfin voilà, oui, complètement. J'ai pas vraiment d'invité de rêve précis. Ça dépend de l'actu. Comme je veux que Baxit soit adapté à l'actualité, bah, quand c'est adapté, je suis trop content. Est-ce que tu pourrais faire des partenariats avec des corps de métier d'ouvriers plutôt que des libéraux? Bah, évidemment. Pourquoi? Bien sûr. Enfin, je vois pas à qui tu fais référence, que j'ai jamais vu de d'organisation de corps de métier ouvriers. Oh, si, remarque. Sur les formations professionnelles, sur les métiers techniques et tout. Oui. Même si l'actu ne fait pas le buzz sur Twitter. Je m'en fous, ça, du buzz sur Twitter. Ah non, mais Twitter, c'est pas le meilleur thermomètre du monde, hein. Il se passe des trucs dans ce pays, il se passe des trucs dans le monde. En ce moment, il y a une réforme des retraites, c'est un peu l'actu, politique. Mais il se passe plein d'autres trucs. T'as pas peur que Martinez décommande ton émission? Non. Salut Nérou. La Banque des Territoires a été sollicitée, nos livrets A pourraient financer Baxit. Je ne sais pas si on a sollicité directement la Banque des Territoires. Mais oui, tu as raison, ça peut être un partenaire intéressant. Est-ce que tu vas marcher avant l'émission demain? J'ai prévu d'aller faire un tour à la manif à Paris pour bah déjà pour voir de mes propres yeux, essayer de jauger, juger, voir un petit peu l'état d'esprit, l'ampleur, les gens, etc. En profiter pour aller passer le big up à quelques personnes que je connais qui seront dans la manif. Et après, je filerai au studio parce que j'aurai plein de boulot. David Dufresne, il sera en stream à la manif. Ah ouais, Dave Duf, il stream? Trop bien. Trop, trop bien. Merci pour vos abonnements. Merci. Excusez-moi, je ne vous remercie pas à chaque fois, mais merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour votre soutien. Merci Malena Rion. Merci Progogira. Merci Miakira. Merci Graffor. Merci Sherpa des Neiges. Merci Papideus. Merci Jospin. Merci Béchelup, merci Sébastien, merci Le Lobby Canet, merci CRTV, merci Cupcake, merci Tyran du 13, merci Atelier Monk. Penses-tu inviter Jérôme de Naotech? Encore une fois, en fait, ma seule réponse à toutes les questions du genre est-ce que tu as prévu d'inviter machin? Que penses-tu d'inviter Truc? Pourquoi tu n'invites pas Truc? Ma seule réponse c'est. L'actu me définit qui j'invite dans l'émission. Point barre. Donc je n'ai pas prévu ou pas prévu d'inviter qui que ce soit, c'est l'actu qui décide. Perso, première manif pour moi demain, j'y vais seul, mais j'imagine que ça va bien se passer avec des camarades lyonnais. Oui. Bah oui, la manif, c'est quand même cool. Tu manges quoi ce soir? J'ai mangé avant le stream des pâtes bolo. Parce que streamer le ventre vide, c'est une connerie. Ça se prévoit combien de temps avant un invité? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Ça dépend. Ça dépend. Combien de personnes travaillent pour Baxit? Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent sur Baxit. Est-ce que les invités sont défrayés? Oui. Ça fait partie du budget, effectivement, ce qui nous permet de nous aider à garantir la présence des invités en leur payant le transport pour venir jusqu'à l'émission. Tout ça fait des frais, mais. Ça t'est déjà arrivé de déprogrammer un invité pour quelqu'un d'autre? Oui. Mais ça dépend, vu que les gens ils attendent leur agenda, machin et tout. Ils sont effrayés aussi. Est-ce que vous effrayez les invités? Martinez, il n'aura pas beaucoup de frais pour venir de la manif. Effectivement, c'est pas très loin. Est-ce que vous avez besoin d'un web développeur? Je cherche une alternance. Non, désolé, on recrute pas. L'équipe est au complet. Est-ce que tu fais des bisous à Exode pour lui remonter le moral? Mais bien sûr, je lui fais des gros bisous à Exode. Mais je te vois demain en plus, Exode, si je dis pas de bêtises. Est-ce que le chat effraie les invités, les chroniqueurs? Non. C'est combien environ la production d'une émission? Chaque épisode coûte 16 000 euros à produire. C'est des salaires, hein. C'est la rémunération pour les équipes qui interviennent dessus. Donc ça comprend, enfin pas que d'ailleurs, ça comprend le matériel, la salle, l'équipe technique de réalisation, ingénieur du son, réalisateur, ingé lumière. Live prod, etc. Ça comprend l'équipe éditoriale, donc journaliste, programmateur, chroniqueur. Ça prévoit la logistique, donc le régisseur et autres. Tac, 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 tac. Voilà. C'est quoi la jauge du public? Demain, c'est la première fois qu'on fait une émission en public, donc on va regarder un peu la jauge, on va la tester un peu. C'est à peu près 40 personnes, mais on va voir comment les gens sont serrés. Enfin, on va voir un peu. Demain, ça va nous servir aussi de guide pour voir exactement. C'est que 16 000, ça me paraît très peu. C'est pas beaucoup 16 000 au regard de ce qui existe dans d'autres types de productions, mais effectivement, 16 000 euros, une émission de 3 heures en plateau, en direct et en public, ces quatre critères-là, c'est pas cher. On réussit à faire des petits miracles. Tu recrutes comment ton public? Ce sont les donateurs. Ce sont les donateurs, les gens qui participent au financement de l'émission, qui sont invités. Donc n'hésitez pas à participer au financement de Baxit. Quand tu dis 16 000, ça prend en compte la part de Utip et la TVA. Oui, ça prend tout en compte, ouais. Vous payez tout le monde? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on est défrayant? Est-ce qu'on est défrayé si on vient de loin? Non. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est l'équipe de réalisation matérielle. Ouais. Mais je vous l'ai écrit ça sur le Utip dans la catégorie à propos. Si vous voulez plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à aller dans le à propos. Sur la page Utip, vous avez toutes les informations et tout. Et notamment, bah voilà, regarde, on vous a mis à peu près les masses. Équipe éditoriale, équipe technique, matériel, studio de tournage, logistique. J'ai même rajouté la phrase, à titre de comparaison, produire la même émission chez nos ancêtres et néanmoins amis de la télévision coûte 10 fois plus cher. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague, j'ai vérifié. Hein. La télé, s'ils faisaient Baxit, ça coûterait 160 000 euros par émission. Est-ce que vous payez une bière après? Bien sûr, évidemment. Non, non, quand vous venez sur le dans le public de Baxit, vous venez dans le public pendant toute l'émission, il y a une pause au milieu pour aller faire pipi, évidemment. Et après l'émission, on vous offre un coup à boire, évidemment. Vous buvez des coups avec l'équipe, avec les chroniqueurs, avec moi, avec... Bien sûr, évidemment. Parce qu'ils payent mieux, parce qu'il y a plus de techniciens. Il y a beaucoup plus de techniciens. Ils payent pas forcément mieux, parce que nous, on est sur les tarifs marchés. Hein, donc un réalisateur, ça coûte le prix d'un réalisateur. Mais ils ont beaucoup, 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 beaucoup plus de gens qui interviennent à la télévision. Et ils ont une technique qui est différente aussi. Diffuser sur Internet, ça nécessite un matériel qui est plus accessible que les régies télé, qui, elles, doivent diffuser dans des formats très spécifiques, diffusion satellitaire, TNT, mon cul. C'est extrêmement cher, l'infrastructure de diffusion télé. Vous êtes combien en tout dans l'équipe? Une vingtaine. Après, la télévision, ils ont aussi des systèmes de redondance qui leur permettent d'éviter d'avoir des bugs antennes, d'avoir des trucs comme ça. Ils sont beaucoup plus assurés que nous, donc évidemment. Ils ont des backups, régies, serveurs et tout. Enfin bon, voilà, c'est un autre niveau. C'est qui l'équipe éditoriale? C'est moi, c'est mes deux coproducteurs, la programmation, le journaliste qui travaille sur la préparation des images et du déroulé avec moi, les chroniqueurs, le quiz à la con. J'ai oublié le quiz à la con, mais il y a le quiz à la con. Les télés, il y a des sécurités de fou. Si un gars marche sur une prise de courant, ça coupe pas tout. Ouais. Non, non, vraiment, il y a des redondances système incroyables et tout. Enfin, mais, oui, c'est un standard différent, la télé. Est-ce que tu trouves qu'il y a des sujets d'actualité sensibles comme la maîtrise du coût de l'énergie qui sont occultés? Sur Baxit, non. Non, non. 10 fois plus de prise de courant, du coup. Ils font des multiprises en cascade sur des cascades de multiprises. C'est une technique. C'est des professionnels. Donc voilà, donc je vous le redis, si vous avez fait un don à Baxit par le passé, égal ou supérieur à 49,30 euros, et que vous voulez venir demain, venez, il y a de la place. La grève rend un peu compliquées les choses, donc venez dans le public, ça me fera plaisir de vous voir. Et puis c'est quand même bien la moindre des choses que de vous proposer de venir, alors que vous avez fait un don sans contrepartie et tout, merci à vous. Voilà. Pourquoi 49,30 euros? Parce que ça fait 49,3. Je comprends pas trop, tu vas faire Baxi toutes les semaines jusqu'à février, ensuite aviser selon la cagnotte. Ouais, c'est à peu près ça. On va essayer de faire le maximum pour avoir les 300 000 euros à la fin du mois de février, ce qui nous permettra de garantir l'émission jusqu'à la fin de l'année, mais évidemment, on fait rien sans vous. Pourquoi pas 69 420? T'as quel âge, Jean? Je te découvre. J'ai 17 ans. Si je branche une multiprise en sortie d'une autre multiprise et que sa sortie est branchée à l'entrée de la première, j'ai une énergie infinie. Oui, ça a été prouvé scientifiquement. Je te pensais plus jeune. Non, je déconne, j'ai 34 ans. Donc sur Parcoursup, oui. C'est pour ça que tu milites pour le droit de vote à 16 ans, t'as pas encore le droit de vote. Exactement. Wikipédia dit 36. Comment ça, Wikipédia dit 36? Ben non, je suis né le 1er octobre 88. 34 ans. Quatre ans. Encore 30 ans à bosser, ouais. Ex-pilote de l'aéronaval, bien entendu. Tu pilotes de chasse, ancien pilote de chasse. Mais c'était trop facile le pilotage d'avion de chasse, donc j'ai préféré devenir juriste et travailler en politique. Trop lent, ouais, trop lent. Wikipédia, dans la partie controverse, il y a collusion avec la Russie soviétique, t'as jamais démenti. Oh l'enfer. En plus, attends, la chute du mur de Berlin, c'est quel jour? En 88, en 89. C'est en. Je sais plus. C'est en novembre? C'est le 9 novembre 89, ok. Ouais, bah je suis né un an avant à peu près. À vue de pif. Tiens, bah regardez, il y a Flonflon qui est en train de streamer l'Eurovision de 1988. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid chez Flonflon? Flonflon, donc streamer qui parle de musique, il fait pas de la musique mais il en parle. Et l'une de ses spécialités, c'est de faire de l'analyse musicale. De l'analyse musicale, il fait les émissions de comment ça s'appelle? Star Academy, c'est un des plus grands fans et connaisseurs de la Starac. Et là, il est en train de faire un stream où il regarde l'Eurovision de 1988. En vrai, c'est marrant. Donc, on fait un raid chez lui. Merci à toutes et à tous, les amis. Merci d'avoir été là, c'était cool. Demain, rendez-vous sur Backseat à partir de 19h. Ça va être trop cool. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos questions. J'espère avoir répondu à un maximum. On en refera des FAQ, vous inquiétez pas. Voilà. Merci à vous. Des bisous. À très bientôt. Profitez bien de l'Eurovision 88 avec Flonflon. Soyez sympa avec lui. À bientôt. Des bisous. Ciao.